Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'avais pas de problème particulier avec la pression parce que je l'ai depuis que j'ai 14 ans, donc il y a pas de problème avec ça.
Peut-être un manque de pression. Moi, je l'ai souvent dit, et quand on me disait ouais, mais vous avez la pression en ce moment de jouer à Chaban, quoi, à Chaban Delmas.
Il y aura jamais aucune pression, c'est que du bonus pour nous.
J'imagine déjà Christophe Galtier dire, de toute façon, nous on y va sans pression, on a 6 points.
On sait que c'est Marseille qui sera sous pression sur ce match-là.
Personne ne peut pas mettre pression sur lui. Personne.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Simon Dutin.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes au bon endroit. RMC, le temple du foot à la radio. Le ballon ne s'arrête jamais de rouler. L'after est là tous les soirs de l'année. Avec, autour de moi, pour vous accompagner durant ces deux heures, Florent Gautreau, Kevin Diaz. Bonsoir, messieurs.
Salut, Simon. Salut, Kevin. Salut à tous.
Salut à tous.
Bon, vous avez fait un petit détour par le studio. Les bagages sont prêts. La valise encore ouverte sur le lit.
C'est tout à fait ça. La valise est ouverte, mais elle est prête.
Vous êtes plutôt valise à moitié pleine pour la rapporter pleine de là-bas avec un petit peu de shopping.
C'est un peu ça aussi. Ouais.
Ouais. Bon, écoute, j'ai quand même pris pas mal de choses, c'est que ma DA est importante.
Bien sûr.
Mais sinon, c'est vrai qu'on a laissé un peu de place, bien sûr, pour le retour. Mais il y a quelques affaires de sport quand même pour garder la forme.
Ben oui. Parce que Gilbert, il a dû.
Avec le Gautreau, on va aller courir sur les bords de l'Hudson.
Problématique, c'est les. Prend le plus de place, c'est les chaussures quand tu fais du sport.
Ouais.
Donc moi, là, j'ai déjà 4-5 paires de pompes en tout, quoi. Donc,
T'as déjà 4-5. Ah non, moi, j'ai pris que 3 paires, parce que je sais que je vais en acheter une ou deux là-bas.
Ah bah c'est ce que j'allais dire. Si t'achètes pas des sneakers à New York, Kevin Diaz,
J'ai pris des paires un peu hybrides, que tu peux faire un peu de running, mais tu peux quand même aller te promener en ville avec, tu vois.
Pour avoir un petit peu de flow quand même, voilà, évidemment.
Un peu tout.
Évidemment, Kevin Diaz.
Ma paire de running, je l'aimais pas pour autre chose que le running. Hein,
mais c'est là
que je viens dedans quand même.
C'est là où il faut casser les codes. Voilà.
Je suis d'accord, mais pour la sphère, tu casses pas trop les codes.
Ah, les chaussures de golf
Écoute, non.
Oh, non. Bon.
Mais j'ai des chaussures qui peuvent me permettre de jouer au golf.
Ah, tu vois.
Parce qu'on sait jamais, sur un malentendu, ça peut se présenter.
Florent Gautreau, Kevin Diaz, évidemment que vous retrouverez aux États-Unis pour la Coupe du Monde 2026, RMC Radio officielle. D'ici là, le programme qui nous attend jusqu'à minuit. J-2 donc avant une Coupe du Monde dont la France est l'une, si ce n'est la favorite. Est-ce que cela ne vous rappelle pas un petit peu 2002? Avez-vous peur de l'échec? Les Bleus sont-ils prêts? Tout simplement. Il faut sauver le soldat Dembélé. Ce sera l'avis de Flo. Le Ballon d'Or n'a pas particulièrement brillé face à l'Irlande du Nord. Ça inquiète notre éditorialiste. On parle de 2002 avec l'échec des Bleus. Qui va se rater cette année? Quel joueur, quelle sélection sera la déception de cette édition 2026? Venez nous donner votre avis, vous également, au 32-16. Niveau mercato, Greenwood devrait quitter l'OM. La direction peut-être la Roma. Les supporters de Marseille doivent-ils regretter le départ de l'attaquant anglais? Giroud, lui, va faire une saison de rab du côté de Lille. Ne serait-ce pas l'année de trop pour lancer l'avant-centre des Bleus? Et puis, dans les infos du jour, le Real qui communique désormais sur les offres de transfert au club concurrent. 150 millions d'euros pour Julian Alvarez, du voisin de l'Atlético. Vous nous direz, messieurs, ce que cela vous inspire. Voilà le programme copieux qui vous attend. Vous ne bougez pas, l'after démarre tout de suite sur RMC.
RMC, l'after foot.
Évidemment, le 32-16 pour venir participer à nos débats, le chat de la chaîne YouTube de l'After, et puis le WhatsApp pour papoter en direct, 06 12 424 424, vous le savez, ce lien entre vous et l'antenne, c'est la promesse de RMC, vous n'hésitez pas à en profiter, tu me faisais signe.
Non, juste un truc, parce que j'ai entendu dans Génération After, mais c'est un point sur lequel il faut qu'on revienne quand même, c'est l'arbitre, tu sais, somalien. On
en dira peut-être un que petit ce mot. Ne sera pas dans l'after, si tu vois ce que
d'accord,
je veux dire.
Peut-être, mais en tout cas, non, mais ça juste pour évidemment. Je dis pour les auditeurs de l'after, parce que hier j'ai échangé avec certains aujourd'hui sur les réseaux. On n'a pas du tout passé ça sous silence. On en a parlé hier en fin d'émission. Génération After vient d'en parler très bien. Et évidemment, c'est un énorme scandale et ça met en perspective aussi ce qu'est ce mondial et ce qu'avait dit Trump de la Somalie et des Somaliens, ce qui était absolument dingue et raciste il y a quelques semaines. Donc c'est évidemment un scandale. Je dis juste et effectivement on en parle. D'une manière ou d'une autre.
Tu sais quoi, on va en profiter, on va casser le conducteur, comme on dit, on va faire ce qu'on appelle une fausse ouverture dans notre jargon. On trouvera peut-être une autre idée pour. C'était pas dans l'after. Kevin, ça t'inspire une réaction avant de te donner la parole. Je rappelle l'info pour ceux qui ne l'ont pas eu. On a appris aujourd'hui qu'Omar Artan, arbitre somalien, et il avait été retenu pour diriger les rencontres de la Coupe du Monde, a finalement été écarté du casting officiel. C'est la FIFA elle-même qui l'a annoncé aujourd'hui. Après qu'il s'est vu refuser l'entrée sur le territoire américain, il disposait pourtant d'un visa en règle. C'est le gouvernement somalien qui l'a confirmé. La FIFA, c'est le communiqué officiel, confirme que l'arbitre Omar Artan ne pourra ni s'entraîner ni officier lors de la Coupe du Monde 2026 après s'être vu refuser l'entrée aux États-Unis. La FIFA n'intervient pas, précise l'instance, dans les procédures d'immigration du pays hôte, y compris dans l'octroi des visas, et a été informée par les autorités que le statut de M. Artan ne serait pas modifié pour le moment, conformément aux précédentes compétitions organisées par la FIFA. C'est le gouvernement du pays hôte qui détermine en dernier ressort qui reçoit un visa et qui est admis sur son territoire. Kevin.
Bah écoute, c'est comme disait Flo, hein, moi je suis abasourdi par ce genre de nouvelles. J'avais vraiment un bon espoir que ça puisse se régler, hein, peut-être dans une deuxième instance ou dans un deuxième instant où il puisse rejoindre ses collègues arbitres pour la Coupe du Monde. Maintenant, ça fait partie des particularités vraiment insupportables de cette compétition, parce que vraiment que ce soit un arbitre, que ce soit un joueur ou un membre de staff ou même un journaliste, forcément tout le monde doit pouvoir participer à partir du moment où, bien sûr, tu respectes les règles établies. Mais apparemment, s'il avait un visa, c'est quand même difficile. Alors, à comprendre.
Il avait quand même eu des difficultés à obtenir ce visa parce que la Somalie est dans le viseur des États-Unis. Il avait eu un passeport diplomatique. Mmh. C'était assez compliqué. Néanmoins, ce qui me choque, la deuxième lame, après avoir parlé des États-Unis et de Trump, c'est la FIFA. Parce que la FIFA
doit... On n'est pas surpris que la FIFA...
Non, on n'est pas surpris, mais
enfin, il faut qu'ils se disent, oh ben non...
Il faut le dire parce que...
C'est pas notre faute, on peut rien.
La FIFA, si tu veux, est responsable aussi en termes même d'accréditation de tous les membres et donc les arbitres qui la composent. Et là, elle l'a lâché en race campagne. C'est-à-dire qu'elle n'a pas à un seul moment dit on va voir avec le gouvernement américain s'il peut y avoir une solution. Non, elle a dit il ne pourra pas s'entraîner, arbitrer. Je trouve que ce message-là, tu as raison Simon, on le sait, mais c'est bien de le redire et de l'entendre. La FIFA, sur cet exemple-là, montre à quel point elle est totalement soumise. Bien sûr, elle se retranche derrière. Bien sûr qu'un pays hôte a le droit sur les visas d'avoir un droit de regard. Mais quand même, quand tu as un arbitre qui est connu, qui est référencé, qui a été élu meilleur arbitre africain d'ailleurs en 2025, exactement, et que la FIFA a choisi pour l'arbitrer, et c'est important, la FIFA doit au moins se battre pour régler ce problème-là. Mais si ce gars avait fait une erreur dans la procédure ou avait commis une faute, elle pourrait le lâcher en race campagne, mais c'est pas le cas.
Et c'est ça, parce que là, il s'agit de, c'est l'un des siens, finalement.
Bien sûr. Hein,
la FIFA, tu l'as souligné, il a été élu meilleur arbitre africain il y a un an de cela. C'est l'un des siens, et on peut, même en poussant le raisonnement, dire que ça peut nuire à la qualité de la compétition, puisque on perd un des meilleurs arbitres, qui devait officier. Alors, il a réagi, Omar Artan, et on peut saluer justement son côté positif. Malgré les circonstances, dit-il, je garde une attitude positive et me concentre sur les prochains défis de ma carrière d'arbitre. Je tiens à remercier la FIFA et la Confédération africaine de football pour tout leur soutien. Et je m'engage à maintenir mon niveau d'arbitrage tout en me concentrant sur l'avenir. Je remercie la famille du football pour ses messages. Et je souhaite à mes collègues beaucoup de succès pendant la Coupe du Monde. J'ai hâte de les retrouver lors des prochaines compétitions.
Tu sens le pouvoir de la FIFA quand tu vois ce message.
C'est ça, c'est qu'en plus, il doit faire allégeance à la FIFA.
Il ne veut pas insulter l'avenir pour ne pas se griller pour les futures compètes. Alors qu'au fond de lui-même, s'il avait dit c'est scandaleux, j'ai été sélectionné, FIFA ne m'a absolument pas aidé, il sait que derrière, il va se faire griller pour les futures compètes. C'est vraiment... C'est dictatorial comme façon de faire, et la FIFA s'aligne sur ce qu'ont décidé les États-Unis. Je rappelle juste quand même les propos que Trump avait tenus sur la Somalie, en disant que c'est un pays arriéré, et sur les Somaliens qui vivent aux États-Unis, parce qu'il y a une communauté, je ne sais plus dans quel état il avait fait allusion à ça, je répète même pas les termes tellement ils étaient racistes. On est quand même dans un truc dingue. Je trouve que comme début et comme avant-goût entre guillemets là de cette Coupe du Monde, c'est catastrophique.
Énormément de réactions sur le WhatsApp de RMC, notamment Cyril qui nous dit je trouve ça aberrant. Idir qui nous dit Omar, on est tous avec toi. Évidemment, ça vous fait réagir. Comme Gaël qui a fait le 32-16 et qu'on est ravi d'accueillir dans cet after un petit peu, vous l'avez compris, remanié. Bonsoir Gaël.
Bonsoir les gars. Gaël. Je vous écoute depuis Toronto et j'aimerais intervenir et donner mon avis. En fait, c'est une histoire qui dépasse. En fait, si vous voulez, c'est Trump qui règle ses comptes avec la communauté somalienne. Il y a une histoire derrière tout ça. En fait, les Somaliens se sont installés après la guerre civile en 1990, parce qu'il y a eu la chute du gouvernement et tout ça. Donc, la communauté s'est installée, on va dire, à Minnesota. Et c'est une communauté.
On précise, Gaël, que vous êtes franco-somalien vous-même, hein?
Oui, franco-somalien. Mais moi, je suis arrivé en France en 2012. Et à l'époque, je me rappelle, même si c'est hors sujet, je n'avais pas le droit de regarder le foot parce que je vivais dans un foyer. Et puis moi, je vous ai je vous écoute depuis 2012. Et j'avais le seul moyen de suivre le foot était d'écouter le RMC parce qu'on n'avait pas droit au foyer, on n'avait pas Canal Plus si vous voulez. Donc je vous écoute depuis, et après même ici je travaille à Toronto, je vous écoute tous les jours au travail, et donc et après je me suis dit pourquoi pas intervenir parce que c'est une histoire en fait, si vous voulez. Trump fait la guerre contre la communauté somalienne qui est en Amérique. Parce que les Somaliens votent la plupart démocrates, la gauche, si vous voulez. Et donc, il y a une dame qui s'appelle Ilhan Omar qui est dans le Congrès, Congresswoman.
Oui. Allô? Le Congrès, oui, bien sûr, le Congrès américain.
Elle fait la guerre ouvertement contre Trump et sa politique. Et donc, lui, il insulte tout le temps les Somaliens, la communauté somalienne, parce que aussi les Somaliens décident au niveau politique l'État de Minnesota. C'est eux qui gouvernent, entre guillemets, si vous voulez. Si vous avez regardé la dernière fois, par exemple, le maire, quand il veut, il demande à la communauté somalienne de voter pour lui. Et c'est eux qui décident la plupart. Et lui, il déteste ça. Et il est aussi contre les Somaliens, la communauté somalienne qui a réussi. Et il est contre tout ça. Et il faut aussi comprendre que Omar, le gouvernement somalien a tout fait pour pas être refoulé. Parce qu'on lui a donné un passeport diplomatique. Mmh. Un passeport diplomatique. Donc, et après, Trump, il règle ses comptes avec nous, donc on ne peut rien faire contre lui. Et il ne faut pas oublier qu'Omar Hassan, aussi, c'est le meilleur arbitre africain. Et ouais. Voilà, on va dire. Après, je ne sais pas, je vous écoute, les gars, mais. Voilà, moi je voulais vous dire au niveau politique, ça dépasse en fait, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est africain ou autre, mais c'est parce que il est somalien. Et les Somaliens, c'est eux qui gouvernent Minnesota, et Minnesota c'est un État démocrate, gauche si vous voulez.
Ilhan Omar, en effet, député démocrate. Né en Somalie et élu dans l'État du Minnesota, qui est en effet devenu l'une des adversaires, en tout cas au niveau médiatique, d'un Donald Trump qui, on le sait, a l'habitude de régler ses comptes de façon personnelle et pointe souvent du doigt la communauté somalienne en l'associant à l'insécurité et à des problèmes de terrorisme, pousse-t-il de temps en temps le président. Merci beaucoup Gaël d'avoir réagi spontanément à cette information. Donc Omar Hartan, arbitre somalien qui avait été sélectionné pour officier durant la prochaine Coupe du Monde, qui a été rayé de la liste des arbitres, un petit peu lâché par la FIFA. Et évidemment, on pense à Gianni Infantino et les rapports que le patron de la FIFA entretient avec Donald Trump. On ne peut que regretter que l'instance internationale se soit un petit peu couchée devant le caprice une nouvelle fois de Donald Trump. C'est un petit peu ça l'after, hein. Il fallait qu'on réagisse à cette information. On espère que cette Coupe du Monde ne sera pas trop parasitée par des infos comme ça sur le plan sociétal, politique. On espère qu'on va réussir à parler de ballon. Ce qu'on va faire dans un instant avec Florent Gautreau et Kevin Diaz. On se quitte quelques instants et puis on va se projeter sur cette Coupe du Monde vers laquelle l'équipe de France s'avance en tant que favorite. On va se demander quand même si on n'aurait pas intérêt à se méfier un petit peu parce que on a des précédents qui nous ont déjà coûté cher. Vous ne bougez pas, l'after revient dans un instant.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Simon Dutin.
Accompagné ce soir par Kevin Diaz et Florent Gautreau, en partant demain pour les States, les États-Unis, où se déroule, vous le savez évidemment, la prochaine Coupe du Monde. Plus que deux dodos hein, avant les premiers matchs de ce mondial. RMC Radio officielle de la Coupe du Monde, vous ne manquerez rien, évidemment, sur l'antenne premium de RMC, sur la radio digitale, créée également pour l'événement. Dans un instant, on va se projeter sur l'entrée en lice des Bleus dans un tournoi vers lequel ils s'avancent comme favoris. Mais avant ça, priorité au direct, il y a une autre équipe de France qui joue en ce moment même, l'équipe de France féminine. Ça se passe à Grenoble avec en point de mire la domination, la supériorité dans le groupe A, mon cher Edouard G, bonsoir.
Salut Simon, salut Kevin, salut Flo, bonsoir salut à tous.
France-Irlande donc, le premier,
France-Irlande. Exactement, et ben pour l'instant tout va bien pour la France, mais ça tient un fil, les Françaises qui mènent 1-0 grâce à un ciseau retourné magnifique, une reprise acrobatique magnifique à la 39e minute de Melvin Mallard. 1-0, bon, pour l'instant tout va bien, mais attention parce que dans le même groupe, la Pologne pour l'instant est en train de battre le Pays-Bas est en train de battre la Pologne, et ça va être entre les deux équipes. Il ne faut pas que la France fasse match nul et donc encaisse un but égalisateur des Irlandaises. Je dis ça parce que eh bien, depuis le début de la deuxième période, on a dépassé l'heure de jeu. Eh bien, ce sont plutôt les Irlandaises qui ont le pied sur le ballon. Les Françaises sont moins offensives et moins créatrices qu'en première. Mais pour l'instant, l'essentiel est là avec ce but de Melvin Mallard qui les met devant donc au tableau d'affichage, et pour l'instant avec une partie du billet pour la Coupe du Monde 2027 au Brésil.
Allez, on y croit Doudou, ça va tenir évidemment. Tu interviens si un but est inscrit du côté de Grenoble entre la France et l'Irlande. Je vous le disais, J-2 avant le début du mondial masculin. Ça débutera donc dans la nuit de que je dise pas de bêtises, ça débute non jeudi soir, ce sera pas encore la nuit, 21h heure française, Mexique Afrique du Sud dans le groupe A, et en revanche dans la nuit de jeudi à vendredi à 4h du matin heure française, Corée du Sud République Tchèque. Pour l'entrée en liste des Bleus, c'est J-7 dans une semaine, donc pile mardi prochain 21h heure française face au Sénégal. Le Sénégal, tiens, qui avait battu les Bleus, vous en souvenez, lors du premier match de la Coupe du Monde 2002
en
Corée du Sud, exactement, juste après la barre transversale de David Trezeguet, au bout d'un quart d'heure, on se disait que on allait rouler sur tout le monde. Alors, bon, au-delà de la symbolique, que revêt le fait d'affronter le même adversaire, certains observateurs sont tentés de voir cette année quelques similitudes avec l'approche du tournoi 2002 vers lequel les Bleus s'avançaient comme favoris. On se rappelle comment ça a fini, élimination après la phase de groupe, Sénégal, Uruguay, Danemark, Zidane blessé, tout le monde à la maison alors qu'on rêvait à l'époque d'une deuxième étoile. Cette année, on vise la troisième avec ce qui est certainement la ligne d'attaque, vous allez me donner votre avis, la plus terrifiante du tournoi, effectif pléthorique, un sélectionneur qui a prouvé qu'il s'est gagné, qu'il va vouloir réussir sa dernière sur le banc des Bleus. Et si, messieurs, je veux pas être l'oiseau de mauvais augure, tout ça partait un petit peu en marmelade. Alors, en attendant les auditrices et les auditeurs au 32-16, je vous pose cette question. Est-ce que il vous arrive, en préparant ce mondial, de repenser à 2002 et de craindre ce qu'on pourrait appeler le syndrome 2002? On rappelle que cette année, dans notre groupe, c'est le Sénégal, la Norvège et l'Irak.
Bah alors, en tout cas, moi, je pense, je sais pas si c'est le syndrome de 2002, mais je me méfie vraiment de l'atmosphère qu'il y a autour de cette équipe qui fait des Bleus des favoris évidents. Et c'est plutôt les raisons pour lesquelles on fait des Bleus les favoris qui m'inquiètent. C'est-à-dire qu'on fait des Bleus des favoris dans le grand public parce qu'on dit « Ah, l'équipe, elle est dingue !» Les gens qui s'intéressent pas forcément au football d'ailleurs de manière précise, mais qui l'ont fait par exemple pour le PSG et qui vont le refaire pour la Coupe du Monde, ont la sensation que une partie de cette équipe du PSG, et c'est pas faux, est aussi en équipe de France, et que donc en gros avec ce qu'on leur rappelle, cette somme de talents, il peut rien arriver aux Bleus. Et je pense qu'effectivement c'est le scénario classique, et ça Deschamps le sait évidemment, il l'a connu même s'il n'était plus en équipe de France en 2002. C'est le scénario classique contre lequel il faut lutter. Et on voit bien que du côté des Bleus, il n'y aura pas en tout cas l'idée qu'ils sont au-dessus des autres et qu'il n'y a rien à faire. Ils savent l'écueil à éviter. En revanche, moi je pense qu'il y a de bonnes raisons d'être inquiet parce que cette somme de talents offensifs, et moi je voulais en parler quand on parlait de Dembélé tout à l'heure, pour moi elle déséquilibre entre guillemets l'équipe. On en a parlé hier dans le débrief de France-Irlande du Nord, et à ce titre les équipes qui seront collectivement mieux huilées, plus efficaces, peuvent effectivement surprendre ces Bleus. Donc oui, il y a un risque pour les Bleus, pas seulement d'ailleurs pour les Bleus, mais oui, il y a un risque pour les Bleus parce que, en gros, pour schématiser, si Deschamps veut reproduire ce qu'il a vu parfois avec le PSG et ce qu'il essaie de faire depuis quelques mois avec ses quatre offensifs, mais que ça déséquilibre l'équipe et qu'il perd son ADN à lui, qui est d'une équipe costaud, eh ben peut-être que oui, tu peux avoir des difficultés. Donc oui, je pense que les adversaires des Bleus, contrairement à ce qu'on peut penser d'ailleurs, profitent effectivement de ce statut de favori pour aller dans les failles. Je reprends ce que j'ai dit hier, mais juste chez Mersfaé, qui avait très bien préparé quand même son match amical là, avec la Côte d'Ivoire, et qui a vu assez facilement les failles, même si c'était une équipe B, évidemment, des Bleus. Donc oui, il y a un risque, effectivement, de ce genre de scénario.
Pour les plus jeunes d'entre celles et ceux qui nous écoutent ce soir, si on fait le parallèle, c'est parce que tu as souligné, tu as parlé d'addition, de somme de talent. C'est qu'en 2002, on s'avance à la Coupe du Monde avec... la victoire à l'Euro en 2000, la victoire à Coupe du Monde en 98. On a Zidane qui, cette fois-ci, est incontestablement un des trois les meilleurs joueurs du monde. On a Thierry Henry, meilleur buteur de Première Ligue. David Trezeguet, meilleur buteur de Serie A. Djibril Cissé, qui est la nouvelle sensation du foot français, meilleur buteur de Ligue 1. On se dit, on va marcher sur tout le monde. Et puis, patatras, Zidane blessé. Et retour à la maison. Kevin, ton sentiment avant ce début du mondial?
Non, mais moi je suis pas plus inquiet que ça, en tout cas pour une reproduction de ce qui s'est passé en 2002, parce que une élimination au premier tour, je la vois pas du tout venir, parce qu'avec cette Coupe du Monde à 48, qui pour moi, ça pour moi, je le répète, hein, c'est une hérésie, 48 clubs, 48 équipes, c'est-à-dire que c'est quasiment les trois premiers qui sont qualifiés pour le tour suivant.
Les huit meilleurs troisièmes sur 12 groupes. Ouais, donc en effet.
Franchement, c'est ridicule, c'est complètement ridicule. Pour moi, la Coupe du Monde déjà, c'était réservé à une élite. Après, tu pouvais te qualifier depuis tous les pays, etc. Mais c'était les meilleurs de tous les continents, etc. Là, bon, t'as quand même des pays qui sont vraiment en dessous. Bon, après, tant mieux pour eux. Et bah, une fois que t'as dit ça, l'équipe de France, si elle finit pas au moins troisième de ce groupe, ah, ce sera vraiment plus une catastrophe. Là, ce sera un cataclysme incroyable.
Ouais, mais ce que je peux t'objecter, c'est que désormais, il y a des 16e de finale. Ouais. C'est-à-dire, il y a un match à élimination directe supplémentaire. Et si tu sors en 16e, c'est équipe, comme si tu sortais pas du groupe.
Cette équipe, elle est quand même très, très difficile à battre sur 90 minutes. Sur 90 minutes. Après, tu peux faire match nul, par exemple, en poule. Mais ensuite, je les vois bien aller loin. Mike Maignan est monstrueux sur penalty. Il y a quand même un gros banc, donc moi je les vois moins, tu vois, sortir contre une petite équipe en 16e ou en 8e. De toute façon, tout est possible. Ils sont sortis contre la Suisse, et pourtant c'était peut-être en 2021, c'était quand même une des meilleures équipes,
hein, en 8e
avec Benzema, avec Griezmann, avec Pogba. Mbappé, Pogba, avec Pogba, ouais. Donc c'est vrai que quand il y a beaucoup de talent, ça peut être compliqué. Mais je ne suis pas inquiet pour une qualification éventuelle en quart de finale, même si on respecte le foot et on sait qu'il va falloir jouer les matchs et les gagner.
Le parallèle effectivement avec 2002 peut pas vraiment être fait pour plein de raisons. Il y a le format dont on parle. Effectivement, c'est beaucoup plus facile de sortir des poules. Donc en gros, l'échec, de toute façon, il est plus maintenant pour l'équipe de France sur l'histoire de la poule. Il est effectivement, même une élimination en huitième, quel que soit l'adversaire, ce sera un échec pour les Bleus. C'est plutôt de ce type d'échec dont on peut parler. Après, pour reprendre 2002 que j'ai bien connu, j'étais sur place à l'époque. Oui, ouais. J'y étais, mais j'étais surtout avant aussi, pendant et après. En fait, c'est très différent. On a un sélectionneur qui n'a pas fait grand chose par rapport à l'équipe en 2000 et qui est toujours là en 2002, c'est Roger Lemaire, et qui n'a pas vraiment la main sur l'équipe. On a effectivement une équipe et un pays qui est déjà parti sur la deuxième étoile, et qui est en euphorie totale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout les discours de prévention qu'on est en train de tenir là ou qu'on entendrait dans la bouche des sélectionneurs et des joueurs. Donc il y a tout pour se casser la gueule, alors que là on a un sélectionneur qui connaît ça par cœur. C'est pas lui le souci là-dessus, mentalement il fera pas ce genre d'erreur. Moi je dis plus que le risque pour les Bleus, c'est une élimination prématurée par rapport à leur objectif qui est les demi-finales, enfin fixé par la Fédé, hein, du moins, évidemment en souhaitant
c'est
la victoire.
Un objectif qui est sportif ou qui est financier?
Ah, je sais pas, en tout cas j'ai entendu que Diallo et Deschamps, Diallo avait fixé
c'est
les demi.
C'est plus un objectif qui est financier pour pouvoir rentrer dans les frais, parce qu'aujourd'hui moi je le dis,
c'est vrai que si c'est avant, c'est un échec.
Moi je le dis, je le répète, quand t'es l'équipe de France, quand t'es le Brésil, quand t'es n'importe quelle grande nation, les Pays-Bas, ils y vont pour gagner. Hein. Alors ils pensent pas qu'ils vont, peut-être qu'ils ne gagneront pas. Ils pensent pas qu'ils sont ultra favoris. Mais dire que tu vas pour les demi-finales, à moins que ce soit sur le plan comptable, et c'est un peu triste, mais sportivement, tu y vas pour gagner. Oui, après, ça, attention, le football fait qu'il y aura qu'un seul vainqueur et que c'est pas parce que il y aura qu'un seul vainqueur que les 47 autres auront raté leur compétition. C'est pas ce que je dis non plus. Mais l'objectif, c'est de gagner.
Oui, mais c'est la distinction toujours entre l'échec et la déception. Tu sors en 16e, en 8e, c'est un échec, tout le monde en convient. Ah, ouais. Tu sors en demi, nous, observateurs, on aura du mal à dire que c'est un échec. Après, les joueurs, tu peux te mettre à leur place et évidemment qu'ils seront déçus parce que tu vas pour gagner.
Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse vraiment, enfin, dans l'after, entre guillemets, c'est de dire oui, bien sûr, là, il y a tout un pays qui attend les Bleus et qu'ils aillent le plus loin possible. Et tous les gens se disent bah, tiens, on nous dit qu'ils sont très forts, on y croit, il n'y a pas de raison. Ok. Moi, comme pour l'Euro 2024, on va regarder le contenu. Mmh. On est allé en demi-finale. Pour moi, en termes de jeu, c'était un échec. Mmh. Maintenant, c'était dans le palmarès de Deschamps et dans la collection de derniers carrés, de finales gagnées et de finales. Oui, c'est beau. Il va très loin, très souvent avec l'équipe de France. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder le jeu. Si cette équipe-là, elle nous séduisait, elle était équilibrée, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, et elle était performante, et qu'elle se fasse éliminer dans un super match en quart ou en demi, moi, je serais capable de dire c'est pas un échec. Mais moi, j'attends surtout de voir le contenu plutôt que de savoir comment ça va se passer à la fin.
Bon, écoutez, on verra évidemment comment ça part. Souvent, le premier match est déterminant.
Tu vois, la grosse différence, c'est que le Sénégal, quand on va en 2002, là, personne ne prend par-dessus la jambe. Au contraire.
Tu as raison.
C'est pas du tout l'atmosphère. Les Sénégalais n'avaient pas le même vécu à l'époque non plus. C'est vrai aussi.
Et les Bleus avaient été surpris par l'engagement, notamment la densité physique des El Hadji Diouf et de ses coéquipiers. Vous ne bougez pas, Florent Gautreau, Kevin Diaz non plus. On continue de se projeter sur l'entrée en lice des Bleus au Mondial. Est-ce que ces Bleus vous semblent prêts? Redoutez-vous ce qu'on peut qualifier de syndrome 2002, à savoir on se voit un petit peu trop beau avant la compétition et du coup on pourrait rater notre Coupe du Monde. Vous venez, vous faites le 32-16, venez échanger votre avis avec celui de nos experts. Vous le savez, c'est la promesse de RMC. L'after revient dans quelques instants. RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. Vous ne manquerez rien, évidemment.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Simon Dutin.
Entouré ce soir de Kevin Diaz et Florent Gautreau avant leur départ pour les États-Unis. RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. J-2 avant le début de cette édition 2026. J-7, on est à une semaine pile de l'entrée en lice des Bleus. Ce sera face au Sénégal mardi prochain, 21h, heure française. Évidemment, tous les matchs de la Coupe du Monde, vous pourrez les vivre sur l'antenne premium de RMC ou sur celle de sa radio digitale créée pour l'événement. Vous ne manquerez rien. On continue de se projeter sur l'entrée en lice justement de l'équipe de France et ses chances de succès dans ce mondial. On veut une troisième étoile, mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop confiant avec cet effectif, avec les états de service de Didier Deschamps sur le banc des Bleus, Dédé qui disputera sa dernière compétition à la tête de l'équipe de France. On en parle avec vous, qu'on attend au 32-16. On donnera la parole à Marco et à Amadou dans un instant. Avant ça, petit détour par Grenoble, Édouard G. L'équipe de France féminine joue, elle, sa qualification pour le prochain mondial 2027. C'est face à l'Irlande, deuxième du groupe A. Les Françaises mènent, Édouard, mais se complique la vie, hein.
Exactement, c'est crispant, c'est étouffant, c'est stressant pour le banc et Laurent Bonadéi. Certes, il y a toujours 1-0, il reste 11 minutes. Pour l'instant, les Françaises sont toujours sur la route du mondial au Brésil. Mais voilà, elles sont à 10 contre 11 puisqu'il y a eu deux cartons jaunes pour une des joueuses, une des défenseuses, en l'occurrence Amoura. Et du coup, eh bien, il a fallu se réorganiser pour les Bleus et on est à 11 contre 10. Et surtout, Constance Picot a fait deux superbes arrêts, sinon on en était à l'égalisation. Alors ça aurait été assez difficile à admettre, mais cette deuxième mi-temps, elle est aux antipodes de la première où tout allait bien pour les filles de Laurent Bonadéi. Alors pour l'instant, tout va bien, les Françaises mènent 1-0, elles sont qualifiées directement. Mais attention, parce qu'un but qualifierait l'équipe des Pays-Bas pour la Coupe du Monde, parce que les Pays-Bas, pour l'instant, mènent tranquillement face à la Pologne 2-0. en rappelant que là, il est question d'une qualification directe. Hein. S'il n'y a pas de qualification directe ce soir, il pourrait y avoir les barrages. Mais c'est, ça faciliterait un petit peu le calendrier. Mais ça va être stressant encore sur les 10 dernières minutes. 1-0 pour le moment.
Allez, pas de blague. Edouard, on compte sur toi et sur les Français. Tu interviens évidemment si le score change sur la pelouse de Grenoble entre la Français, l'Irlande. Vous le savez, hein, vous réagissez à nos débats, le 32-16, le chat de la chaîne YouTube de l'After. Ou le WhatsApp de RMC, le 06-12-424-424. On se projette sur les chances de cette équipe de France. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop confiant à l'approche de cette Coupe du Monde? Vous êtes nombreux à réagir. Tu vois, Idir nous parle du choix de l'hôtel, Flo, toi qui était en 2002. C'était un bunker un peu inaccessible pour les joueurs.
C'était l'inverse. En fait, ils avaient été dans des logements à côté d'un hôtel, mais avec un accès permanent à cet hôtel qui avait aussi un casino et tout. Donc, il y avait des va-et-vient assez faciles. Et c'était au contraire. Mais il y avait plein de choses. Par exemple, pour te dire, il y avait tellement de circulation à Séoul que Roger Lemaire avait décidé avec son staff de ne pas aller faire le truc traditionnel la veille de match et l'entraînement dans le stade. Tu sais, la reconnaissance du stade, qui est quand même un truc qui se fait quand même traditionnellement tout le temps.
Pour rentrer un peu dedans,
il s'était dit non, c'est trop loin, il y a trop de circule, on reste à l'hôtel. Bon, il y a eu plusieurs choses comme ça, mais non, c'est plutôt le fait que c'était un peu trop perméable, au contraire, et que les joueurs pouvaient sortir un peu trop facilement.
Franck nous dit sur le WhatsApp, les objectifs de la Fédération de foot, c'est bidon, à chaque compétition, ils nous disent demi-finale, en même temps, ils vont pas nous dire huitième de finale, ou alors victoire obligatoire. À certaines altitudes, ça devient, quel que soit l'adversaire, un petit peu aléatoire. On va accueillir Marco dans l'after. Bonsoir Marco, merci d'avoir fait le 32-16.
Salut Marco. Bonsoir à tous, ça va?
Nous ça va toujours quand on parle de ballon dans le studio RMC. Et toi, comment tu te prépares à cette Coupe du Monde? Est-ce que tu penses qu'on est trop confiant? Est-ce que tu penses que le crash est possible?
Franchement, dans l'état actuel des choses, moi, le crash, je vois gros comme une maison.
Ah, à ce point-là.
Pour moi,
Juste dès le groupe?
Non, comme en fait, maintenant, avec la Coupe du Monde à 48, c'est bidon, la phase de groupe. Avec 3 points, comme j'ai vu là, ces derniers jours, t'as 54% de chances de passer. Donc, en vrai, tout le monde passe. C'est une passoire, la phase de poule. Mais pour moi, je suis d'accord avec Flo. Un séisme. Tu sors en 8e, pour moi, c'est un séisme. Pour moi.
Tu peux même sortir donc en 16e, a priori, puisque il y a un tour de
même plus. Il y a un tour de plus, mais même le 8e, je vais un peu plus loin. Ouais. Le 8e, c'est un gros échec. C'est un gros, gros échec. Avec le matos qu'on a, c'est impossible d'arriver et de dire quoi que l'équipe de France, elle sort en 8e de finale. Moi, pour moi, déjà, même la communication de la fédération, je ne sais pas si c'est au président de la fédération de donner les objectifs de l'équipe, enfin les objectifs sportifs de l'équipe aux médias, mais pour moi, t'es Didier Deschamps, t'arrives, tu dis, je suis l'équipe de France, je suis là pour gagner. Parce qu'en fait, il faut arrêter avec la fausse modestie, avec le matos que l'équipe de France a.
Surtout que pour le coup, Didier Deschamps ne sera pas là après. Donc, il peut dire qu'il y va pour gagner, puisque de toute façon, s'il ne gagne pas, il ne sera pas là. Donc,
tu veux dire qu'il ne pourra pas être puni si jamais
À la rigueur, quand tu as un entraîneur qui a 4 ans, Marco, bon, je peux comprendre. Ton entraîneur, il lui reste 2 ans derrière. Tu ne vas pas lui dire, bon, c'est objectif victoire, sinon, en gros, on est des
peintres. Mais du coup, c'est aussi ça qui m'inquiète, parce qu'au final, là, ce qu'on voit de l'équipe de France ces derniers mois, et même ces dernières années, sur sa tournée d'adieu que j'appelle, moi, bah, c'est pas du Deschamps, quatre offensives comme ça, où ça a aucun sens. Comme là, en fait, je vais faire un parallèle avec le football en club. J'ai vu ces derniers temps aussi qu'Enrique parle de bordel organisé. En France, c'est un bordel désorganisé. En fait, t'as Mbappé qui joue en pointe, qui va sur le champ de Dembélé. Dembélé, il sait pas quoi faire, il touche 30 ballons dans le match. Bah ouais, mais t'as personne devant. En début de match, on voit Doué faire des centres, il y a personne devant le but. En fait, les joueurs se déplacent où ils veulent. Mais ce n'est pas cadré. On peut se déplacer sur le terrain, les joueurs, c'est des craques mondiaux, mais il faut un minimum de cadre. Parce que là, on va tout droit dans le mur.
Alors Marco, je t'invite à rester évidemment à l'écoute de l'after, puisque à 23h, Flo nous donnera son avis tranché sur Ousmane Dembélé, un petit peu inquiet pour le ballon d'or parisien. Flo, merci d'avoir fait le 32-16, Marco.
Salut,
on va donner la parole à Amadou, qui veut également participer à ce débat. Bonsoir Amadou.
Oui, bonsoir à l'équipe, vous allez bien?
Ça va toujours bien, comme on le répète, nous, quand on parle de foot, et surtout à deux jours du début d'une Coupe du Monde. Amadou, tu voulais intervenir sur notre
le premier truc que je voulais dire, c'est qu'en tant que franco-sénégalais, déjà, je signe pour le début de la compétition de 2002. Je signe tous les jours.
Ouais, tu prends la victoire 1-0 du Sénégal.
Des deux mains, des deux pieds. Après, le reste, à voir. Mais pour le début, je signe tous les jours. Mais franchement, j'ai hâte. Franchement, c'est le match que France-Sénégal que j'attends. J'avais 15 ans en 2002. Parce que j'ai 39 ans et en plus j'étais au Sénégal parce que j'ai vécu 6 ans là-bas entre 2000 et 2006 et en 2002 j'étais là-bas mais c'était incroyable la fête les gens qui sortaient dans la rue on avait l'impression que c'était c'est la libération tu vois comme en 1945
on se rappelle il y a eu des scènes de liesse évidemment pour le Sénégal mais Flo l'a rappelé Sénégal qui n'avait pas la même stature au plan international et peut-être qu'il y avait bénéficié de, peut-être d'un petit manque de respect peut-être de la part des Bleus qui se voyaient très forts.
Ben moi franchement quand j'ai entendu les propos de Cherki dire qu'on va marcher sur tout le monde, j'espère que pour lui et pour l'équipe de France que ça va bien se passer contre le Sénégal parce que déjà je pense que les propos qu'il a tenus en disant qu'on va marcher sur tout le monde, je pense que dès le premier match s'il y a même un match nul hein, parce que moi à titre personnel je pense que puisque l'équipe de France défensivement c'est catastrophique et c'est ce que je disais tout à l'heure hors antenne, je disais que moi je pense qu'il y a un truc à faire parce que défensivement à part Upamecano qui est une certitude, Saliba son problème c'est que il a un problème physique donc du coup moi je pense que ça fera pas la route et ce qu'il y a sur le banc Konaté, il devra même pas être là. Je pense que comme il est là parce qu'il y a une logique de groupe de Didier Deschamps, c'est pour ça qu'il est là dans le groupe. Mais il a fait une saison catastrophique et je pense qu'il y a en fait un déséquilibre entre l'attaque et la défense parce que tout le monde est obnubilé par les quatre fantastiques devant Olysée, Dembélé, Cherki, Mbappé et Dembélé. Mais par contre derrière, quand tu vas aller loin dans une compétition, moi on m'a toujours dit il faut une grosse défense. Et l'équipe de France, elle est souvent allée loin dans une compétition quand elle avait une défense qui était solide. Là, la défense solide, à titre personnel, je ne la sens pas. Donc je pense qu'avec les armes que le Sénégal a, les offensifs, Ismaël Assar est actuellement, il est dans une bonne forme. Je pense que Sadio Mané, il va vouloir faire quelque chose pour sa dernière compétition. Ibrahim Baye aussi, Hassan Diao. Franchement, moi je pense que le Sénégal, offensivement, ils ont des armes pour faire mal à la défense française parce que je la trouve pas très bonne.
Flo, Kevin, est-ce que vous partagez un petit peu l'avis de Amadou, à savoir, on parle trop de notre attaque, alors certes, parmi les meilleurs, si ce n'est la meilleure sur le papier du tournoi, et pas assez de la défense. Souvent dans les sports co, je crois que Kevin, je t'ai déjà entendu citer la référence. On dit que l'attaque ça gagne des matchs et que les défenses ça gagne des tournois.
Oui, non, mais ça c'est certain. On l'a dit aussi hier, mais je répète ce que j'ai dit. Ça va être un petit peu ma rengaine de cette Coupe du Monde. Pour moi, on défend pas à 4. On défend pas à 4 plus 2. Oui. Pour moi, on défend vraiment à 11. Alors malheureusement, l'équipe de France, on sait qu'on va défendre à 10. Ça, c'est le minimum, parce que voilà, on a.
C'est-à-dire qu'il y en a un devant qui aime pas défendre?
On a un capitaine qui participe pas trop aux tâches défensives, et en plus, c'est pas qu'il s'en vante, mais en tout cas, il assume. Maintenant, s'il met les buts devant, j'ai envie de te dire pourquoi pas, mais quand même, le souci, c'est que ça crée toujours un décalage, parce que, tu vois que ton coéquipier ne fait pas l'effort, est-ce que toi tu vas le faire, est-ce que toi tu vas être à l'heure pour le faire, ou est-ce qu'il n'y a pas le petit retard et le décalage, c'est terminé, et derrière, tu prends une transition. Mais pour moi, je ne parlerai pas uniquement des latéraux, des défenseurs. Pour moi, c'est un équilibre qui est collectif. Et c'est là où on verra les résultats, mais en tout cas, a priori, avant la compétition qu'on va suivre avec grand plaisir et en plus sur place, c'est que on va pouvoir voir si Didier Deschamps va se renier ou pas. Parce que pour moi, c'est pas sur les quatre attaquants qu'il se renie. Pour moi, c'est sur le fait qu'il accepte qu'il n'ait pas 11 défenseurs, ou au moins 10. Tu vois, aujourd'hui, pour moi, quand tu mets autant de joueurs offensifs, sans une organisation très claire à la perte du ballon, puisque en plus, les joueurs ont une certaine liberté, et on doit tous jouer en fonction des autres, en fonction de Kylian, en fonction de si Ousmane y joue, en fonction de si notre ami Olysée, il fait la diff ou pas. Donc en fait, où sont les compensations? Qui défend? C'est normal, tu vas prendre des vagues, hein. Comme contre la Côte d'Ivoire, tu vas en prendre des vagues contre le Sénégal. Je ne sais pas si ça va aller au bout, mais je peux te dire que tu vas en concéder des occasions. C'est forcé. Avec cette animation, tu vas concéder des occasions. Je n'ai aucun problème avec concéder des occasions, mais normalement, c'est pas l'ADN de notre sélectionneur.
En effet, ça ressemble très peu à ce qu'on croit connaître du Didier Deschamps sélectionneur. Mais bon, quand on a autant de talents devant, c'est compréhensible peut-être de vouloir céder à cette tentation. Merci beaucoup Amadou d'avoir fait le 32-16, d'être venu participer à nos débats. Amadou qui nous l'a dit, hein, un petit peu partagé, même s'il va rouler pour le Sénégal, lui le franco-sénégalais. Début de réponse donc à nos questions. Mardi prochain, on est à une semaine pile de l'entrée en lice des Bleus dans la compétition, ce sera au MetLife Stadium de New York, 21h, heure française. Florent Gautreau, Kevin Diaz, ne bouge pas, vous non plus, évidemment. Dans un instant, on va se demander tous ensemble qui pourrait être le gros raté, la grosse déception de ce mondial. À chaque édition, il y a une sélection qui passe à côté. Venez échanger votre avis. Vous le savez, c'est la promesse de RMC.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Simon Dutin.
À deux jours désormais du début de la Coupe du Monde 2026, ça débutera donc jeudi soir, 21h heure française, avec la rencontre entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 4h du matin, la Corée du Sud face à la République Tchèque, RMC Radio officielle de la Coupe du Monde. Vous vivrez ce grand événement évidemment sur notre antenne, l'antenne premium, celle de la radio digitale créée pour l'événement. Et ce sera évidemment en compagnie notamment de Kevin Diaz et Florent Gautreau qui sont passés par le studio RMC alors que la valise n'est pas encore tout à fait prête. Ils s'envolent pour les États-Unis avec toute la bande de l'after d'ici quelques heures. On va continuer de se projeter sur cette compétition. On va se demander tous ensemble qui pourrait être la grosse déception de cette édition. Avant ça, Edouard G, soulagement à Grenoble pour l'équipe de France féminine.
Ah ouais, exactement, le soulagement de Laurent Bonadei et de tout son staff à la hauteur des tremblements qu'ils ont vécu sur cette deuxième période et au fil du temps que celle-ci s'écoulait. Donc 1-0 avec un magnifique but en première période, une magnifique première période, un magnifique ciseau retourné de Melvin Mallard. Mais la deuxième mi-temps, c'était extérieur nuit, rien. Et au final, on a tremblé jusqu'à la dernière seconde. Mais voilà, les Françaises ont battu les Irlandaises 1-0 et pas besoin de regarder le score, la victoire des Pays-Bas face à la Pologne. Et donc, elles ont leur valise à faire pour le Brésil l'année prochaine, mais elles ont un petit peu plus de temps que vous. Hein, parce qu'elles ont une grosse année, ça sera le début le 21 juin 2027. Mais voilà, la bonne nouvelle de la soirée, c'est que les Françaises de Laurent Bonadei et de son staff iront au Mondial brésilien l'année prochaine. Victoire 1-0, merci Melvin Mallard.
Et merci Edouard G de nous avoir fait vivre la bonne nouvelle donc pour le football français, l'équipe de France féminine qualifiée directement donc pour la prochaine Coupe du Monde 2027 au Brésil. Là aussi, ce sera évidemment un événement à vivre sur notre antenne. Retour à l'édition masculine hein, qui débute dans deux jours. Donc, on a évoqué les Bleus en 2002 tout à l'heure. On pourrait, convoquer la sélection argentine cette même année-là. Vous vous souvenez, la belle sélection de Marcelo Bielsa qui jouait si bien et qui pourtant avait été éliminé. On pourrait parler de Neisner en 2010, l'Espagne en 2014, l'Allemagne en 2022. Bon, chaque Coupe du Monde nous réserve au moins une surprise. Une mauvaise surprise, un favori qui prend la porte plutôt que prévu ou qu'espéré en tout cas par ses supporters. Alors, même si on a rappelé qu'il y a un nombre inédit d'équipes, qu'il y a 12 troisièmes de groupe qui seront qualifiés, il y aura quand même des gros qui vont se rater, soit en finissant dernier de leur groupe, soit en sortant dès les 16e. Il y aura un tour d'élimination en plus. Je vous pose la question, messieurs, qui pourrait être, pas sera, hein, vous n'avez pas de boule de cristal, la grosse déception de ce mondial. Qui va rater sa Coupe du Monde? Kevin, t'as une idée là-dessus?
Non, moi c'est pas une idée, c'est plus
une crainte.
C'est plus une crainte ouais. D'une équipe que je supporte. Hein. Faut savoir que je supporte beaucoup de sélections. C'est l'avantage d'être binational ou trinational en l'occurrence pour mon pays d'adoption qui est un peu les Pays-Bas footballistiquement. Mais c'est vrai que moi j'ai une petite crainte quand même sur le Portugal.
Ah.
Tu vois.
Alors.
Je pense qu'ils ont toutes les qualités pour aller très très loin. Mais si tu me demandes qui des gros favoris peut quand même passer à travers, ça reste quand même les Portugais parce que j'aime beaucoup les joueurs. Je suis un peu moins fan du sélectionneur.
Roberto Martinez.
Que pour moi, il manque de courage.
Ouais.
Il manque de courage. Alors oui, il y a toujours l'histoire Cristiano, pas Cristiano. Et je comprends que c'est compliqué pour mes cousins portugais. C'est toujours tellement sensible comme sujet. Comment abîmer une idole, hein, même pour moi. Cristiano qui a toujours été une idole, même si on a sensiblement le même âge.
Tu veux dire que t'as peur que Martinez soit coincé avec un Ronaldo, obligé de le mettre sur le terrain?
On a déjà été à la dernière Coupe du Monde. Ouais, bah. C'était il y a 4 piges, l'histoire. Tu vois, à partir du moment où j'ai entendu apparemment que Martinez aurait dit que Ronaldo pourrait être là, celle de 2030.
Ouais, il espère, et il le pense capable de jouer jusqu'en 2030.
Hein. Donc, non, je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet pour le Portugal. Maintenant, j'espère bien sûr qu'un de mes deux pays arrivera à faire au moins un beau parcours, quart, demi, si ce n'est plus. Mais je suis un peu inquiet.
Alors, ça peut te rassurer pour ton autre pays d'adoption. J'ai vu passer ça cette semaine. C'est un mathématicien ou un scientifique qui a créé un algorithme. Il a trouvé les vainqueurs des trois dernières éditions avec précision. Et cette année, il a annoncé que c'est les Pays-Bas, que son modèle avait donné les Pays-Bas champions du monde. Flo, est-ce qu'il y a une...
Ils sont champions du monde avec cette génération.
Ouais.
Après les 40 dernières années, c'est vraiment que le foot, c'est imprévisible.
On le rappelle, hein, les Pays-Bas.
Imprévisible pour les maths, mais pas pour les humains.
Les Pays-Bas qui n'ont jamais encore été sacrés et qui ont eu toutes les peines du mal à battre l'Ouzbékistan, je crois, hier soir.
C'est marrant parce que moi je voulais justement parler, alors ça fait partie des grands favoris a priori, mais peut-être de série quand même, des Pays-Bas justement, qui ont déjà un groupe qui n'est pas simple, je trouve, pas si simple que ça, mais bon, qui peuvent en sortir. Mais c'est plutôt après, effectivement, les Pays-Bas, ça peut être compliqué. Et puis, alors, si on sort un peu de l'histoire du groupe, puisqu'on l'a dit, maintenant, on est tous d'accord pour dire que c'est plus vraiment sortir du groupe, c'est plutôt être éliminé prématurément, ouais, on va dire, en 16e ou en 8e. Moi, je suis inquiet pour le Brésil. Parce que pour moi le Brésil, et même si Ancelotti va sans doute faire réussir un peu sa sauce, c'est pas un grand Brésil, c'est pas une génération incroyable. Pareil que pour le Portugal, pollué avec l'affaire Neymar, je pense que c'est pas, de toute façon, pour une sélection, c'est pas le on va dire le cocktail idéal. Donc
même si Flo Ancelotti a pas l'air contraint de mettre Neymar sur le terrain.
Il a déjà été contraint de le sélectionner, alors qu'a priori il l'a fait pour répondre à la Vox Populi. Donc si tu veux, moi je pense que alors il est blessé pour l'instant quelque part, il aura peut-être pas de soucis pour le premier match. Déjà c'est un énorme match puisque c'est Brésil-Maroc. Mais voilà, moi je serais un peu inquiet pour le Brésil et les Pays-Bas. Et puis de ce que j'ai vu.
Moi j'ai dit le Pays-Bas comme surprise potentiellement positive.
Ouais, bah tu vois, on verra. De toute façon, une Coupe du Monde, c'est tellement
les
étonnant.
Pays-Bas ou le Brésil? Parce qu'on était ensemble, tu nous avais parlé du Brésil.
Brésil.
Ah oui, parce que t'as dit les Pays-Bas. Ouais,
t'as dit non, Pays-Bas. Excuse-moi, moi j'ai dit le Brésil la semaine dernière comme éventuellement surprise positive.
Ouais, alors, surprise, oui, mais ça reste le Brésil, toi.
Oui, mais ça resterait une surprise s'ils gagnent.
Oui, c'est sûr que avec cette génération-là, t'as raison. S'ils gagnent, moi je pense vraiment que ce serait une énorme surprise.
En tout cas, Ancelotti, toute petite parenthèse, ouais, qui assume ses choix parce qu'ils ont perdu Wesley, le latéral droit de la Roma, sur blessure, l'ancien de Flamengo. Et Ancelotti a choisi de le remplacer non pas par un latéral droit de formation, mais par Ederson, le milieu de terrain un peu à tout faire de l'Atalanta. Et c'est quand même un gros pari parce qu'il n'y a plus vraiment de latéral droit dans cette sélection brésilienne.
Je pense qu'il faut vraiment qu'on aille sur des équipes, enfin pour aller, je prends le schéma inverse, pour trouver celles qui vont aller plus loin, disons, et donc peut-être trouver par défaut celles qui auront des soucis. Je trouve que l'exemple du Portugal et de Cristiano, c'est un très bon exemple. L'exemple de, on va dire à un degré moins, de Brésil, de Neymar avec le Brésil, c'est un bon exemple. Je pense que Mbappé avec la France, c'est un bon exemple. Parce que les sélections qui gagnent, les équipes qui gagnent, ce sont des collectifs. Alors, c'est un tapin, ce que je dis. Mais en ce moment, c'est encore plus vrai que vrai.
Disons donc, que c'est l'Espagne. Pas une
take. Eh ouais, absolument. Et l'Espagne, évidemment, à ce profil d'équipe collective, tu vois, en ce moment. Je te prends au hasard, même l'Allemagne a ce profil d'équipe collective, l'Angleterre même, quelque part aussi. Donc, moi, pour essayer de chercher les équipes qui pourraient avoir plus de difficultés, je pense que c'est les sélectionneurs qui auront du mal, en gros, à avoir le courage.
À gérer la star
et à dire parfois la star sur le banc. Mais déjà, le simple fait d'avoir à gérer la star et de la mettre éventuellement sur le banc, ce qui peut provoquer un psychodrame, c'est déjà un problème pour tout le monde.
Ça,
pour le vestiaire, pour tout ça. Donc, les équipes les plus peinardes et sereines, là, c'est les équipes qui ont un collectif, qui n'ont pas ce genre de truc à gérer et qui s'avancent sans ces débats-là, quoi, on va dire.
Alors, ouais, c'est vrai que ça, c'est quand même un gros handicap. Hein. Tu te rends compte quand même que nous, bon, on est un des favoris, top 1 ou top 2 favoris de la compétition, mais on en est encore à se demander si le meilleur joueur, allez, en tout cas le meilleur buteur français des 10 dernières années, doit être titulaire. Et c'est des réflexions qui, footballistiquement, sont légitimes. Alors, si on met à part ceux qui aiment pas Mbappé, ceux qui sont un
oui, ancien parisien, faut sortir de ça.
Même si tu sors de ça, tu as le droit de te poser la question. Et ça, normalement, c'est pas normal. enfin normalement ça doit pas l'être.
Et je rappelle juste que, et je dis pas qu'il fallait pas sélectionner Mbappé, hein, pas du tout, je pense juste, genre, on va en parler tout à l'heure, je dis juste que Jacquet lui avait réglé ce problème là et il a pris un risque énorme parce que ça partait en sucette avant la Coupe du Monde. Si ça avait continué à partir en sucette pendant la Coupe du Monde, ouais, mais Jacquet se faisait couper la tête parce qu'il n'avait pas pris Cantona puis pas pris Ginola. Ouais. Donc c'était ce choix là, son choix lui était très clair. Depuis il y a cette jurisprudence là. Mais jusqu'à Mbappé, parce que Mbappé, c'est la première superstar incroyable depuis des années en France.
Bon, en tout cas, on verra, on aura vite un élément de réponse, parce que souvent, quand tu démarres mal, tu envoies des signaux négatifs, et c'est difficile de redresser la barre sur la temporalité d'une Coupe du Monde. Florent Gautreau, Kevin Diaz vous accompagne durant la prochaine heure de l'after. On revient dans un instant. Florent, tu vas nous donner ton avis sur l'utilisation d'Ousmane Dembélé. Tu es un petit peu inquiet par le rôle qu'on laisse, qu'on donne au Ballon d'Or parisien en équipe de France. Tu nous dis ça dans un instant. Vous ne bougez pas, l'after revient.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. RMC.
Je me suis fait un défi avec mes amis. Il y a quelque chose à gagner, des Patek et des Rolex.
Ouais, je suis plus gaucher.
Et les pénalties, vous ne tirez pas du droit?
Si.
Pourquoi?
Parce que je tire mieux du droit.
How is your English? Oui, non. Oui, oui,
oui. So bad.
Ok.
Passez le bonjour à Daniel Riolo aussi.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Simon Dutin.
L'after, comme tous les soirs de l'année, la deuxième heure en compagnie de Florent Gautreau et Kevin Diaz en partance pour la Coupe du Monde 2026 RMC Radio officielle. Vous ne manquerez rien de la compétition, évidemment, sur l'antenne premium, sur l'antenne de la radio digitale dédiée à ce grand événement. Je vous rappelle que la Coupe du Monde féminine 2027 comptera également l'équipe de France parmi les engagés, les Françaises qui ont validé leur qualification directe en s'imposant ce soir à Grenoble face à l'Irlande et ne dépendent plus donc du résultat des autres équipes de leur groupe. On parlait de cette attaque des Bleus qui est peut-être sur le papier la plus terrifiante de toutes celles des équipes qualifiées pour le Mondial. La nouveauté, c'est en effet que toute la lumière n'est plus dirigée sur Kylian Mbappé. Il partage désormais ce rôle d'aller d'épouvantail avec Michael Olise, Désiré Doué, mais surtout Ousmane Dembélé, ballon d'or en titre, leader d'un PSG avec lequel il vient de remporter une deuxième Ligue des Champions d'affilée. Il briguera peut-être un deuxième ballon d'or, mais pour ça, il va falloir réussir à être aussi performant en bleu qu'avec son club. Et pour l'instant, force est de constater que c'est rarement le cas. Et ça inquiète Florent Gautreau, avis tranché.
Salut à tous, c'est Gilbert Bribois. La boucle d'oreille de Maradona a été adjugée 25 000 euros.
Remarquable imitation de.
Je suis pas certain.
On y croit. On en voit Gilbert qui fait le tri dans ses chapeaux de cow-boy. Là, on parlait de valise.
Il est en pleine valise.
Mais oui, Gilbert qui va devoir bien se couvrir durant ce mondial où on annonce.
Faut mettre la crème solaire.
Chaleur, la crème solaire, évidemment. Flo, plus sérieusement, Ousmane Dembélé, il faut sauver le soldat Dembélé. C'est ce que tu nous as envoyé par WhatsApp. Ce dont tu voulais parler.
Tout à fait, parce qu'hier, le match m'a un peu inquiété, même si Dembélé a déclaré lui-même qu'il gérait, en gros, et on a compris qu'ils allaient tout donner pour la Coupe du Monde. Et Dembélé, on l'a vu d'ailleurs dans cette gestion, parfois même avec le PSG, on a compris qu'il était sur les matchs importants et que le match important, c'était le 16 juin. Mais hier, il y avait cette stat qu'on a sortie. Vous savez qu'il a touché 37 ballons en 62 minutes, Doué 66 ballons dans le même laps de temps. L'autre stat intéressante par rapport à sa révolution parisienne et opérée par Luis Enrique sur le Dembélé buteur, 7 buts en 59 sélections. Olise, 7 buts en 16 sélections. Donc, c'est toujours intéressant. 17, pardon, sélections. Donc, en fait, évidemment, l'équation que tout le monde veut résoudre, c'est comment faire pour avoir le Dembélé révolutionné par le PSG. Avoir le même Dembélé en équipe de France. Et c'est pas le cas. Bon, on va pas demander à Deschamps de faire ce que Luis Enrique a fait, c'est du football de club versus du foot de sélection, c'est pas là-dessus que je vais attaquer Deschamps. En revanche, là où je vais un peu attaquer Deschamps, c'est sur faire la suite de ce qu'on a un peu développé hier. C'est le positionnement, et justement on en revient à ce problème d'équilibre avec les quatre offensifs. Ce positionnement axial plutôt derrière le 9, hier c'était catastrophique pour lui parce que Mbappé refuse refusant lui d'être le vrai neuf, eh ben il dézone et il se retrouve dans les pattes de Dembélé. Lui-même, Dembélé, qui a envie d'être plutôt ce neuf depuis que Luis Enrique l'a replacé, il voit que la place est prise, et la place est prise pas par n'importe qui, par un joueur à énorme et à fort statut. Et en fait, les solutions, elles existent. Alors évidemment, il y a des solutions qui sont radicales, qui consistent à dire on met Mbappé sur le banc, ok. Mais même sans ça,
radical, tu peux dire l'euphémisme.
Non, mais c'est radical. Tu peux dire Dembélé sur le banc ou Mbappé sur le banc. Déjà, tu veux simplifier l'histoire. Mais sans aller jusque là, il y a des solutions qui existent, que plein de coachs ont préconisé dans les équipes types des Bleus qu'ils ont faites, en décalant évidemment Mbappé sur la gauche, en mettant Dembélé dans son poste préférentiel. J'écoutais Captain Larquet dans Rotten sans flamme.
J'allais citer ce que Jean-Michel a dit.
Alors, en substance, en tout cas, tu seras peut-être plus complet, mais il y a un truc qu'il a dit. Il dit, on ne met pas notre ballon d'or, le ballon d'or français, dans le meilleur poste qui est le sien, enfin, dans le poste qui est le sien.
On est seul pays à ne pas faire jouer le ballon d'or à son poste. J'ai peur qu'on soit les plus cons, dit le captain. J'aurais aimé dans les matchs de préparation voir Mbappé jouer pendant 45 minutes à un poste qui est le sien. Il faut que tu présentes une équipe avec Olysée à droite, dit Jean-Michel, Dembélé dans l'axe et Mbappé à gauche. C'est interdit de le faire. On continuera de sacrifier le ballon d'or, dit Jean-Michel.
C'est quand même fou. Alors certes, nous ne sommes pas sélectionneurs, mais quand même, on a un petit peu joué au foot. Jean-Michel Larquet est une légende du football français. Flo Gautreau est une légende du journalisme français.
J'ai eu peur.
Et beaucoup d'autres, quand même. Ce qu'on demande, c'est la simplicité. C'est-à-dire, mets leurs joueurs à leur meilleur poste. C'est quand même pas fou ce qu'on demande. C'est un truc qui est basique. Alors l'histoire de, ouais, bon, Mbappé à gauche, il défend pas. Bon, ça va, on a compris.
On est sûr que c'est la seule raison? On est sûr,
Je sais pas, en fait.
Il y a une autre raison qui est que Mbappé lui-même, de par l'évolution même de son physique et de sa carrière, a souhaité, tu sais, au départ, il ne le souhaitait pas forcément, souhaité jouer en neuf pour mettre plus de buts, pour faire très simple, parce qu'évidemment, quand
t'es
neuf, normalement, sauf que, ce rôle de neuf, le problème, c'est qu'il ne le tient pas. Et hier,
il le tient jamais. Non, mais ça, je l'ai déjà dit. Mbappé ne sera jamais un avant-centre.
Alors, ni un avant-centre, mais même sur les petites ouvertures et les profondeurs, tu sais, où il faut être, il faut bloquer le ballon, il faut l'appeler dans le bon timing. Même hier, il part trop tôt encore sur un appel en profondeur. Il y avait une passe d'Olysée. Il n'est pas dans ce rôle-là. Donc, évidemment que il est tellement adroit et tellement efficace, tellement bon, notamment dans sa frappe ouverte, pied fermé, que il va mettre des buts et ça, il y a aucun souci. Mais lui-même dézone pour aller dans d'autres zones que celles pour laquelle on le préfère, enfin où le sélectionneur le préfère. Hier, la relation technique existait plus entre Olysée et Mbappé. Je reviens à Dembélé, voire Doué et Mbappé, mais Dembélé n'avait pas de relation technique avec les autres joueurs. Donc je reviens Dembélé, parce que ce qui m'intéresse, c'est que le joueur en ce moment décisif avec le PSG, qui monte, qui a changé, qui a fait une révolution sur lui-même, c'est Dembélé. Mbappé, on sait tout de lui, c'est un très bon joueur, on a ce débat sur son positionnement, ok. Mais Dembélé, on ne savait pas qu'il pouvait atteindre ce niveau-là. On pensait que oui, toujours un peu blessé, toujours un peu maladroit devant le but. C'est plus vrai. Il est ballon d'or, il a un truc à jouer. Et là, c'est là où je me dis que, effectivement, quand tu n'as pas de plan d'animation offensive, ce qui est le cas de Deschamps à mon avis, tu es contraint par les statuts. Et le statut, c'est Mbappé, qui veut jouer neuf et qui est en neuf, et tu bricoles autour. Le seul qui s'en sort, le seul qui apporte du lien et du lien dans cette attaque, c'est Olysée, effectivement. Que tu le mettes d'ailleurs en 10 ou que tu le mettes en 7. Donc lui, il est pas compliqué. Lui, il met du lien. Lui, hier, il a fait des passes. Lui, il trouve les autres joueurs. Il est capable aussi de porter un peu le ballon. Il a un peu tous les attributs, on va dire, du très bon joueur pour jouer dans un collectif. Mais juste pour terminer, puisque j'avais intitulé cet avis, il faut sauver le soldat Dembélé, je dis à Deschamps de manière radicale, si c'est pour le faire jouer comme hier, ne le fais pas jouer. C'est terrible pour Dembélé, et je suis plutôt d'un avis inverse, mets-le à son poste et décale Mbappé. Mais si c'est pour le faire jouer comme hier, tu vas le rendre malheureux, parce que hier, Dembélé, ok, on va dire que c'était un match de prépa, il a dit qu'il se réservait pour le match suivant. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que si ça fonctionne par des éclairs de génie comme celui d'Olysée hier, tu t'en sors comme ça, parce que c'est possible que tu t'en sors.
On rappelle que Dembélé est décisif sur le premier but.
Bien sûr.
C'est sa frappe.
Mais tous peuvent être décisifs d'ailleurs. Ouais. Tous peuvent mettre Scafoli. Sauf
ils
que.
Ont toujours des possibilités.
Mais moi, ce qui m'inquiète juste pour aller au bout, puisqu'on parle d'une équipe qui est censée vouloir, comme disait Kevin, aller au bout globalement, aller loin, très 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 loin. Le vrai problème, c'est que contre des équipes moins fortes ou des équipes qui ont des faiblesses, oui, ils vont faire la diff individuellement à un moment ou à un autre. Mais il ne faut pas que ça nous oblige à oublier ce débat-là sur la composition et le collectif et les liens de cette attaque à 3 ou à 4.
De toute façon, c'est certain qu'aujourd'hui, Dembélé, c'est un petit peu un caillou dans la chaussure de Didier Deschamps. C'est un caillou dans la chaussure de Didier Deschamps.
Est-ce que c'est pas Mbappé le caillou ?
Comment ?
Est-ce que c'est aussi Mbappé le caillou ?
Non, parce que Mbappé Deschamps, c'est une filiation quasiment. Ils se sont tellement apportés que c'est difficile de penser autrement. Mais aujourd'hui, le ballon d'or d'Ousmane Dembélé, c'est un gros caillou dans la chaussure de Deschamps. Parce qu'aujourd'hui, il sait très bien que quand t'as un mec qui est ballon d'or et qui en plus fait des saisons exceptionnelles avec le PSG, même si cette saison, on va pas se cacher, il a été quand même moins bon que l'an dernier. Il y a un Kvara notamment qui a été prépondérant du côté de Paris. Mais quand même, Dembélé, ça reste le leader de cette équipe. Reste le gars qui s'est mué dans un espèce de capitaine là, qui emmène toute une équipe de jeunes derrière lui, et aujourd'hui t'as envie de le suivre, Dembélé.
Et c'est ça, je te rejoins, qui a su donner une dimension collective qu'on lui soupçonnait pas, c'est-à-dire d'emmener les autres avec
lui.
C'est
ça qui est énorme, parce que c'est ce que je dis et que je répète, être capitaine, être leader, ça ne veut rien dire, il faut le montrer. T'es capitaine, c'est pas parce que t'as le brassard. Moi, j'ai joué dans plein d'équipes, le capitaine, c'était pas celui qui avait le brassard. C'était l'ancien, peut-être, c'était la légende d'un club, c'était un mec respecté. Mais les vrais leaders d'une équipe, ça peut être le capitaine, ça doit l'être. Mais ça ne l'est pas toujours. Aujourd'hui, Dembélé, dans son club, c'est le leader. C'est pour ça qu'il a été choisi comme ballon d'or d'une équipe collective. Et aujourd'hui, Mbappé, c'est tout l'inverse. C'est une énorme individualité dans un collectif d'un grand club, mais qui est un peu en difficulté au niveau des résultats sur les grandes compétitions. Donc, c'est pour ça que pour moi, le ballon d'or de Dembélé, c'est un gros caillou dans la chaussure du sélectionneur, parce que il se sent obligé presque de le mettre. Mais je peux te dire que s'il devait vraiment choisir, je suis pas sûr qu'il ne faisait pas un bon 4-3-3 des familles avec Dembélé sur le banc comme un pack player.
Il faut sauver le soldat Dembélé, c'est l'avis de Florent Gautreau. On en discute avec Kevin Diaz, avec vous, qu'on attend nombreux au 32-16. Venez nous dire si vous aussi vous pensez qu'il faut sauver le soldat Dembélé. Et s'il faut sauver le soldat Dembélé, venez nous dire comment on sauve le soldat Dembélé.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Simon Dutin.
En présentation de Kevin Diaz et Florent Gautreau, l'after jusqu'à minuit, J-2 avant le début du mondial, J-7 avant l'entrée en liste de l'équipe de France. On sera passé au Sénégal, 21h heure française, mardi 16 juin prochain. Vous n'en manquerez pas une miette, évidemment, sur RMC Antenne Premium, une radio digitale créée évidemment pour l'occasion. On peut dire que quand on a deux étoiles sur le maillot et un ballon d'or dans l'effectif, on est riche. On a donc des problèmes de riches à régler. Il faut sauver le soldat Dembélé. C'est l'avis que développait Flo juste avant notre petite interruption. Et c'est vrai que on se demande comment régler, comment mettre Dembélé dans les meilleures conditions. Partant, messieurs, on continue d'en parler pendant la pause, du principe que on imagine mal Didier Deschamps mettre Kylian Mbappé sur le banc, son capitaine, peut-être le meilleur buteur.
Des fois, quand j'entends ça, je l'entends tellement souvent, en fait, tu vois,
que tu dis que ça pourrait finir par arriver.
Non, honnêtement, non, c'est comme Ronaldo sur le banc avec Martinez. Bon, ils ont pas le même âge quand même, mais c'est quasiment impossible. Mais l'idée, en plus, c'est même pas de le mettre sur le banc. En fait, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de le mettre dans un endroit où il n'empêche pas le jeu de l'équipe d'être peut-être un peu plus fluide. Alors on ne sait pas s'il sera plus fluide, parce que c'est pas du jour au lendemain, parce que tu changes un mec de poste ou deux mecs de poste, que il y aura forcément une animation offensive bien plus huilée. Mais en tout cas, comme l'a dit le capitaine Larquet, juste mettons les joueurs à leur meilleur poste. Et déjà, on verra. Maintenant, écoute, tu peux être champion du monde comme ça, on va voir. Mais après, ça ne va pas être facile.
Il y a un truc, je réfléchissais à ça, mais l'équipe de France d'aujourd'hui, hein, de 2026, avec en plus ce système souhaité à quatre offensifs et cet empilement, on va dire, de stars, parce que de fait, Dembélé a atteint un niveau tel que c'est un ballon d'or. Doué a atteint un niveau qu'il n'avait pas même il y a deux ans.
Qui a de Ligue des Champions?
Olysée a atteint un niveau qu'il n'avait pas il y a deux ans quand il était avec l'équipe olympique. Et Mbappé est le Mbappé qu'on connaît.
Qui dans le football français a de Ligue des Champions?
Et donc, je me faisais cette réflexion en voyant ce milieu plus compliqué à deux et cette défense plus perméable avec un Konaté dont je reparlerai un de ces quatre parce qu'il me paraît bien fragile, mais bon, a priori il ne sera pas titulaire, par exemple. Eh bien, ça me fait penser au Real Madrid. C'est, je me dis que les Bleus d'aujourd'hui là, c'est un peu comme le Real Madrid avec ses stars offensives, avec des failles un peu dans ce milieu et notamment dans ce milieu à deux. Et donc Deschamps se retrouve un peu comme à la tête du Real, c'est-à-dire tu dois gérer ton vestiaire, non pas les égos dans le vestiaire en l'occurrence, mais plutôt le système pour arriver à faire jouer ensemble tes superstars.
Tu parles du Real et le PSG des superstars et le PSG des trois galactiques.
Oui, tu veux dire le PSG d'avant. Oui.
Qu'est-ce qu'il y a en lien avec ces trois équipes? Bah, il y a des difficultés pour gérer, comme tu dis, des superstars, notamment Kylian Mbappé. Ça peut être d'autres. Hein. Ça a été aussi le cas à un moment avec Zlatan. On disait ouais, mais Zlatan, il gagne jamais la Ligue des Champions. Bon, avec son pays, c'était plus dur parce que Zlatan, il faut jouer en fonction de Zlatan. Il a fallu aussi avec le Portugal jouer en fonction de Ronaldo pendant un moment. Enfin, en tout cas depuis l'Euro 2016. Donc, on n'est pas le seul pays, on n'est pas la seule équipe à avoir ce souci-là. Hein.
Alors c'est un débat qui vous fait réagir, hein, auditrice, auditeur. On a Salim sur le WhatsApp RMC qui nous dit Dembélé joue quand même avec Jean Neves et Vitinha au milieu de terrain à Paris, ce qui lui offre peut-être des possibilités, sous-entend-il.
Attention, pour être très objectif, que à Paris, Dembélé cette saison, c'est pas une saison de Ballon d'Or non plus.
Non, mais par en contre, effet, il est quand même plus déterminant, plus impactant dans le jeu. Antoine, alias Le Matou, nous dit c'est un faux débat Dembélé. Tu ne peux pas ne pas le faire jouer, même si tu restes sur ta faim. Ça lui rappelle le débat qu'on avait sur Youri Djorkaeff, qu'on surnommait le Snake, et qu'on se demandait si il fallait vraiment le faire jouer, lui qui était un des meilleurs joueurs du championnat d'Italie à l'époque.
Ça a été un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde 98. Selon certains observateurs, moi j'étais un peu jeune, faudrait que je re-regarde toute la compétition, mais beaucoup disent qu'il a été même meilleur que Zidane sur la Coupe du Monde.
Et en 96, il avait été également... à l'Euro 2000, pardon, il est déterminant, je crois, face à la République tchèque.
C'est en 98, il est très fort.
Face à l'Espagne également, et après à l'Euro également.
En 98, Zidane ou Djorkaeff? Si tu devais en enlever un.
Ah, c'est compliqué. Si je dois en enlever un, Djorkaeff est très fort pendant la Coupe du Monde. Mais
on se souvient qu'en tout cas, il y avait ce débat. Est-ce que l'un n'empiétait pas sur le rôle de l'autre? Est-ce qu'on pouvait faire cohabiter les deux?
C'est un autre débat. C'est un débat qu'on a eu aussi avant dans l'équipe de Platini. C'était le fait d'avoir deux joueurs techniques l'un côté de l'autre. Ouais. Mais honnêtement, c'était un autre football aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'était un football où il y avait moins de récup et moins d'efforts demandés quand même également à ces milieux de terrain là. Donc si tu veux, il y a moins d'intensité quand même. Donc tu pouvais te permettre d'avoir le débat qu'il y a eu sur les Bleus des années 80 par exemple avec Giresse et Platini, avec même Genghini qui est rentré aussi parfois. Donc ces débats là, c'était des débats de 10 déjà et pas forcément de 9. Tu jouais avec un double meneur en fait. Tu vois, c'était dingue.
On est d'accord, mais le Paris Saint-Germain qui est quand même l'équipe référence maintenant dans le football européen, voire dans le football mondial, mais ils ont aussi deux meneurs. Ils ont Joao Neves et Vitinha.
Mais t'as vu où ils sont, les meneurs aujourd'hui?
Oui,
c'est des meneurs plus reculés qu'avant.
Peu importe,
ils font plus d'efforts. Oui, plus d'efforts, qui récupèrent beaucoup de ballons.
Ils marquent des buts.
Non, mais je suis d'accord.
Pas 15 buts.
Mais t'as raison, c'est une évolution du foot qui est intéressante d'ailleurs. C'est eux les nouveaux
meneurs. C'était quoi, Xavi Iniesta? Et même, ils avaient un troisième avec Busquets. Donc en fait, aujourd'hui, quand tu regardes... Et Kroos et Modric, c'était pas deux meneurs?
D'ailleurs, c'est...
Toni Kroos et Modric,
d'ailleurs,
c'est
très, très bonne remarque. On dévie, mais c'est très intéressant. Si on considère que les meneurs d'aujourd'hui sont ces joueurs un peu plus reculés et qui, en plus d'être les quarterbacks et les meneurs de jeu, récupèrent le ballon, on les a pas en équipe de France. Parce qu'en l'occurrence, Tchouaméni et Rabiot, je les aime beaucoup tous les deux.
Tu les as eu en 2018, avec Pogba et Kanté.
Mais tu ne les as plus. Ouais. Tu ne les as pas en 2018, tu les as eu en 98, tu les as eu en 2000, tu les as eu en 2006. Ouais. Tu les as eu tout le temps, mais dans les grandes compétitions, je parle de réussite 2018, mais tu les as pas en 2026.
Mais messieurs,
c'est intéressant, on va creuser ça.
Ouais, tout à fait.
Gauthier veut s'inviter dans notre débat. Il a fait le 32-16. On est ravis de l'accueillir dans l'after. Bonsoir Gauthier.
Ouais, bonsoir tout le monde.
Gauthier. Salut Gauthier.
Bonsoir.
Gauthier, ton avis sur ce débat? Comment on fait pour sauver le soldat Dembélé?
Moi, en fait, je trouve que le caillou dans la chaussure, c'est pas Dembélé, c'est la faiblesse de Deschamps vis-à-vis de Mbappé, en le plaçant en neuf. Il est là, le caillou dans la chaussure. Parce que depuis qu'il est en neuf, on a sacrifié Benzema, excusez-moi, Griezou. On a sacrifié Griezou, qui pouvait pas jouer avec Mbappé en neuf, et on est en train de sacrifier Dembélé, qui a du mal à jouer derrière Mbappé. Forcément, Mbappé décroche tout le temps. Donc forcément, il marche sur les plates-bandes de Dembélé, et Dembélé a du mal à s'exprimer de cette façon. Donc je suis globalement d'accord avec Flo. Il faudrait décaler Mbappé à gauche, une chose qui n'arrivera jamais, et placer Dembélé en neuf. Mais ça n'arrivera jamais. Ou alors, il y a une autre solution, c'est dire à Mbappé, ok, bon, c'est toi le neuf, mais tu restes en neuf. Tu ne redescends pas chercher les ballons, tu laisses faire Dembélé le jeu, et toi, tu fixes. T'es neuf, tu fais des appels dans le dos des défenseurs, mais tu ne reviens plus. Tu ne reviens plus marcher sur les pieds des gars qui sont derrière. Et peut-être que là, Dembélé aura plus de facilité à s'exprimer. Ou alors, on bouscule Olise, qui a trouvé enfin sa place en équipe de France, sa vraie place, à droite. Moi, je serais d'avis de le laisser. Et puis, ou alors le bouger à gauche, Dembélé, à la place de Doué.
En fait, il y a un
vrai... Non, mais Doué, tu peux le mettre en 10. Doué en 8, 10. Il est parfait, Doué. Il va te faire les efforts. Il va défendre. Il est capable d'attaquer. Oui. Il est capable de tout faire, Doué. Donc, pour le coup. Et puis après, t'as Cherki pour la dernière demi-heure. Mais l'équipe, on n'a pas besoin d'être tous capello. Hein. Franchement, l'équipe de France, elle est pas. Tu mettais Mathieu Hudon à la gauche pour avoir au moins une solution de vrai défenseur qui peut jouer à 3, qui peut te sécuriser le couloir gauche. Alors là, je dis pas qu'ils peuvent pas le faire avec Hernandez, mais tu mettais un Mathieu Hudon au moins dans le groupe et voilà, et t'avais une équipe de 12, 13, 14 joueurs avec des jeunes comme Barcola qui sur des phases de transition vont aller à 1000 à l'heure. Bon, t'as plus Ekitike, mais t'en as d'autres, t'as du Mateta pour des centres et des longs ballons, t'as du Marcus Thuram. Non mais il y a de quoi faire. C'est juste un bon pas, fais seulement ce que tu sais faire et ça devrait bien se passer.
Hein. Gauthier, sur Dembélé, il y a un truc qui est plus dur qu'avant, c'est que tu dis tiens, on peut essayer de les mettre là, tu pourrais dire tiens, je remets Dembélé à droite, puis Olise plutôt en 10. Mais Dembélé.
C'est contre le Brésil, ça.
Mais Dembélé, oui, exactement. Mais Dembélé, globalement, et je peux le comprendre, il s'aperçoit que tous les autres jouent plutôt à un poste où ils aiment jouer, où ils ont joué, ils veulent jouer. Olise, parce qu'Olise sait faire les deux. Mbappé, donc on en a parlé. Et que lui, c'est plus le cas. Or, lui, il s'est révélé, il s'est révolutionné dans ce poste de 9. Donc c'est vrai que pour lui, c'est compliqué de se dire. Ah bah tiens, je vais retourner sur le poste où en gros j'étais avant parce qu'il faut faire de la place pour des gens qui ont plus d'importance que moi. Et d'autant que, pour finir là-dessus, sur le même l'importance mentale qu'il a prise dans l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est aussi la confiance en lui qu'il a regagné et le symbole et l'exemple qu'il est pour les autres joueurs dans le travail qu'il a fait sur son entraînement invisible, sur tout le reste, pour plus être blessé, pour progresser devant le but, etc. Et là, dans ce groupe-là, il aura forcément moins d'influence parce qu'il y a Mbappé qui est capitaine.
Et t'as dit un truc tout à l'heure. Tu parlais de France 2002. Par contre, faut pas perdre contre le Sénégal. Hein. Parce que là, la bonne ambiance, les trucs, là, ça va commencer à se... inside. Alors apparemment, il y a eu telle discussion, il y a telle.
Bien sûr.
On sait comment c'est dans les vestiaires, hein, peu importe que ce soit l'équipe de France ou la DH ou la R1. Il y a un moment quand ça gagne, ça va, mais la première grosse embûche. On peut commencer à ressortir quand même deux trois trucs où mais lui va peut-être falloir qu'il joue un peu pour l'équipe.
Je pense qu'il y a une solution pour Deschamps. Il y a une solution très courte.
La seule solution, c'est de gagner.
De gagner bien sûr. Et si vraiment ça tournait pas bien, on sait ce que Deschamps fera au moins dans un premier temps. Il repassera en 4-3-3.
Ouais, a priori.
Déjà, solution un peu pour s'éviter des maux de tête, parce que là, tactiquement, tu justifies le fait de sortir un offensif et tu prends ton risque. Mais le vrai piège, effectivement, c'est que ayant voulu absolument jouer avec ces quatre-là, étant déséquilibré maintenant, que ce soit au milieu ou défensivement parlant, et comme il n'a pas bien placé son animation offensive, et ben maintenant, bon courage Didier.
C'est dans les vieux pots qu'on les meilleurs.
Ils peuvent aussi en mettre 3 au Sénégal, hein, c'est possible aussi.
Mais ça ne changera rien, à mon avis, sur le fait que pour aller loin et très loin, et donc aller gagner cette compète, ce problème-là, là, non réglé devant, il va pourrir un moment ou un autre la situation.
En tout cas, la réponse, on l'aura les quelques heures avant le coup d'envoi. Du premier match des Bleus sera face au Sénégal mardi prochain. On est à J-7, 21h heure française, France-Sénégal à New York. Merci beaucoup Gauthier d'avoir fait le 32-16. Ce débat, il ne cesse de vous diviser, hein, auditrices, auditeurs. Les réactions sont nombreuses sur WhatsApp. Jacques, pour moi Dembélé n'a pas sa place dans cette équipe. Gaël nous dit Mbappé ne fonctionne ni avec Neymar, Benzema, Messi, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Dembélé, mais ce n'est jamais lui le problème, c'est donc toujours les autres. On verra si le sélectionneur tente quelque chose. Je me souviens que face à la Côte d'Ivoire, on a parfois vu la paire du ballon, un Dembélé à gauche et un Mbappé à gauche, alors que c'était Marcus Thuram, je crois, dans l'axe. Preuve que le capitaine des Bleus n'est pas tout à fait rétif à se décaler sur ce côté gauche où il est si performant. Vous ne bougez pas, on se projette sur la Coupe du Monde, toujours évidemment sur AMC, mais on va aussi parler des dernières rumeurs, des dernières infos mercato, et notamment Mason Greenwood qui devrait quitter l'OM et prendre la direction de l'AS Roma. Venez nous dire si les supporters de l'OM doivent regretter le départ du talentueux attaquant anglais. Vous ne bougez pas, Florent Gautreau, Kevin Diaz non plus, l'after revient dans un instant.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Simon Dutin.
La dernière ligne droite de l'after, en compagnie de Kevin Diaz et Florent Gautreau, toute équipe, une partie de l'équipe de l'after, vous attendra aux États-Unis où démarre la Coupe du Monde dans 48 heures maintenant, un petit peu moins RMC Radio officielle du Mondial. Vous n'en manquerez pas une miette sur notre antenne premium, sur celle de la radio digitale créée pour l'événement. Évidemment, tous les matchs commentés, débriefés sur l'antenne. On s'est longuement projeté sur cette compétition. Est-on trop confiant pour les Bleus? Doit-on craindre le syndrome 2002 et cette élimination en phase de groupe alors qu'on était les favoris de la compétition, qu'on se voyait peut-être un petit peu trop beau? Comment sauver le soldat Dembélé? C'est le débat qui vient de nous animer. Flo qui soulignait évidemment que le ballon d'or parisien a du mal à avoir le même rendement en bleu qu'avec le PSG. Et puis on parlait des équipes également qui pourraient être les déceptions. Il y en a une au moins parmi les favorites qui se rate à chaque édition. Tout cela évidemment à retrouver en podcast, mais vous attendez quelques minutes ou vous attendez demain pour aller réécouter tout ça. L'autre actu, vous le savez, en marge de la Coupe du Monde, l'autre actu quotidienne, c'est celle du mercato. On adore ça, on sait que vous aussi. Vous pouvez d'ailleurs, vous le savez, retrouver chaque jour toutes les dernières infos sur le live mercato du site RMC Sport, où vous avez certainement appris aujourd'hui que Mason Greenwood pourrait prendre la direction de l'AS Roma. C'est le quotidien sportif italien Corriere dello Sport qui a révélé l'info. La Roma, qui sera en effet proche d'un accord avec le joueur. La Roma doit désormais trouver un terrain d'entente avec l'OM. On parle d'une offre en préparation de 40 millions d'euros. Alors bon, quel que soit le montant de l'offre définitive, ou en tout cas de l'offre qu'accepterait l'OM pour son attaquant anglais, on rappelle que 40% de la somme qui sera convenue reviendra à United, Manchester United. C'est ce qui avait été convenu au moment du transfert de Greenwood à Marseille. Alors en attendant d'éventuelles supportrices et supporters marseillais au 32-16, je vous pose cette question, Kevin, Flo. Est-ce qu'il faut, côté marseillais, regretter ce départ annoncé de Mason Greenwood? Ou est-ce qu'à contrario, on peut, malgré ses stats, que je vous donnerai dans un instant, considérer que c'est une bonne chose de repartir sans le turbulent attaquant anglais?
Moi, je pense qu'il ne faut pas forcément regretter les choses qui sont inévitables. Là, ça devient inévitable, que ce soit financièrement, que ce soit humainement. Il s'est passé beaucoup de choses avec Mason Greenwood, et je pense que bah voilà, c'est déjà un des rares joueurs de l'effectif qui a une valeur qui va permettre à l'OM de combler un petit peu les trous, même si ça va pas écoper grand chose, mais voilà, il faut le faire. Et puis voilà, il a été bon, mais il a aussi agacé par ses non replis défensifs, il a aussi agacé par ses attitudes avec et surtout sans le ballon. Donc j'ai envie de te dire, si l'OM fait ce choix, il faut passer à autre chose et ça sert à rien de gamberger.
Alors tu dis voilà, malgré les buts, c'est vrai, cette saison c'est 16 buts, 16 passes dé en Ligue 1, 3 buts, une passe dé en Ligue des Champions et 2 buts en Coupe de France. La saison dernière, c'était 25 buts, 5 passes d'aide en Ligue 1. Flo, il y a en effet le talent, il y a le rendement, et puis en effet, parfois certaines attitudes, une présence.
Il y a plein de choses en fait sur Greenwood. C'est effectivement, c'était le meilleur joueur, c'était celui qui pouvait être le plus décisif dans tous les matchs. Mais quelque part, dans plein de matchs aussi, enfin dans plusieurs matchs importants, il n'a pas été présent parce que il n'a pas eu la bonne attitude. On sait qu'il ne l'a pas eu aussi parfois à la commanderie. Moi, je trouve pas que ce soit. Je sais pas comment te dire. J'ai pas une j'ai pas une affection particulière en dehors de tous les problèmes qu'il avait eu avant et de ses problèmes de violence conjugale qui déjà faisaient que je trouvais que ça pouvait être un problème, de même que je l'avais dit pour Boateng quand il était arrivé à Lyon. Mais sorti de là et de ça, je suis pas certain que si tu es supporter de l'OM, en plus évidemment vu la saison qui s'est écoulée, tu te dis, tu vois, tu sois pris d'un amour fou pour Greenwood parce que tu n'as pas senti ni dans son attitude ni dans apparemment ce qui s'est passé ailleurs que sur qu'au Vélodrome, c'est-à-dire à la Commanderie, tu as pas senti un gars 100% ou 120% impliqué. Donc évidemment que c'était le meilleur joueur, le facteur X de l'OM, donc c'est une perte. Mais à partir du moment où tu es dans une reconstruction, on va dire, je ne vais pas parler de nouveaux projets parce que ça va faire sourire, mais en tout cas où tu alignes l'entraîneur, le directeur sportif et un nouveau président en te disant bah il faut essayer de construire quelque chose de plus calme. J'entends parler de l'orienté, par exemple, que je connais, tu sais, le joueur de Sassuolo, Armand Lorienté, qui est un très joueur. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec Greenwood, mais l'orienté est un mec talentueux et donc tu pars sur autre chose et sur un autre profil. Effectivement, comme dit Kevin, moi je ne regrette pas, je ne regretterai pas Greenwood, parce que si les supporters de l'OM veulent des joueurs à leur image, des joueurs impliqués, toujours présents, toujours au taquet, on peut pas dire, malgré les stats et malgré le fait qu'il soit, qu'il puisse être à tout moment décisif, que ce soit un joueur qui a été 120% impliqué dans le projet marseillais l'an dernier.
Mason Greenwood, en partance de l'Olympique de Marseille, le Corriere dello Sport révèle que l'AS Roma est pour l'instant le club le plus intéressé. Les discussions avanceraient bien entre le club de la Louve et l'attaquant anglais de 24 ans. Reste à trouver un terrain d'entente avec l'OM qui, je le rappelle, doit donc rendre 40% de la somme qui sera convenue pour le transfert de l'anglais.
55 millions d'euros, c'est ça que
Le Corriere j'avais entendu la même somme que toi dans la semaine. Le Corriere dello Sport parle de 40 millions pour une première offre. On imagine que du côté de l'OM, on va essayer en effet
aujourd'hui Greenwood,
de faire gonfler. Ça vaut combien Greenwood?
C'est 70.
70, ouais.
Non, je suis pas sûr.
Attends, ça fait 5, c'est sur les deux dernières saisons, c'est 75 buts quand même. En termes de passes et de buts. Hein.
Ouais, je sais pas si avec les bonus tu iras au-delà de 60, mais bon.
Oui, allez, si tu veux 60, mais
maxi.
On n'est pas loin de 70 pour moi.
On va poser la question à Florian, supporter marseillais.
Il a ses problèmes hors football qui font que peut-être que son marché n'est pas le même.
De toute façon, il traînera toujours ce boulet judiciaire derrière lui, même si au plan technique, il n'a pas été condamné puisque sa compagne a fini par retirer sa plainte. Florian, vous l'entendez, patiente au 32-16. Bonsoir Florian.
Oui, bonsoir à tous.
Supporter marseillais, Florian, deux questions en une. Le départ de Greenwood, il paraissait inévitable. Est-ce que tu en conviens? Et est-ce que tu penses que finalement, il vaut mieux repartir avec un nouvel entraîneur sans l'attaquant anglais, malgré ses stats et son importance?
Inévitable, je ne sais pas pourquoi il est forcément inévitable. J'avais cru comprendre, moi, qu'il se plaisait très bien ici, donc je vois pas pourquoi ça serait inévitable. Alors, est-ce que, par contre, on parle d'une nécessité financière, budgétaire, de le vendre? Là, c'est plus la même chose, et je m'en désole, et je pense que ça va dans le cheminement du déclassement de l'Olympique de Marseille, entre le coach et maintenant le fait de se débarrasser de vendre ses meilleurs joueurs. Et la question, c'était est-ce que les supporters olympiens vont-ils regretter Greenwood? Je vois pas comment on peut répondre non à cette question-là. C'est le facteur X, c'est le meilleur joueur du club depuis 2 ans. J'ai rarement vu depuis une bonne vingtaine d'années un joueur aussi fort, moi, je trouve, impactant à la fois dans les résultats et dans le jeu. Alors certes,
On dit qu'il disparaît dans les grands matchs. On dit voilà, fort contre les petits et puis un petit peu absent dans les rencontres
comme toute l'équipe, qui comptent. Au final, comme toute l'équipe, mais moi je trouve qu'il a été plutôt impactant. Là où on l'a attendu, moi je trouve qu'il a été fort dans les grands matchs. J'ai pas le souvenir d'avoir quelqu'un qui avait été nul à la différence de l'équipe. C'est, de toute façon, c'est quand l'équipe sombre, mais par contre, quand l'équipe sombre et que lui, il lève un peu la tête, ben, l'Olympique de Marseille arrive à faire des prestations et à gagner. Et je sais pas, moi, comment, on va pouvoir s'en sortir sans un joueur comme ça, parce que sans Mason Greenwood, l'Olympique de Marseille est une équipe moyennasse. Et je sais pas, moi, du coup, quel va être l'avenir du club avec un joueur aussi fort. Moi, je pense que c'est un des joueurs les plus forts de l'Olympique de Marseille depuis ces derniers temps. Et puis, ça va être une catastrophe pour notre équipe. Et je pense, moi également, que c'est une catastrophe pour notre championnat d'avoir un joueur, voir partir un joueur comme ça. Je pense, moi, que ça va nous faire bizarre. Et quand on va regarder ses prestations à l'étranger, on va se dire, ah, punaise, on avait quand même ce joueur au sein de notre équipe et au sein de notre championnat. Et puis, bah, il est parti pour un club. Bon, voilà, c'est la Roma. On va pas non plus dire que c'est un grand cadeau européen. Hein, c'est ça le problème.
Alors, Florian, en effet, ça a été souligné dans leurs interventions par Kevin et Flo. Le talent du joueur, il n'est pas à remettre en question. Il y a un côté, en revanche, qui vampirise un petit peu. Il attire le ballon, il a besoin d'avoir le ballon. Est-ce que ça va pas libérer un Pachao, par exemple?
Si on organise un système autour de lui, comme De Zerbi avait fait cette année quand ça marchait bien, bah effectivement, l'équipe fonctionnait bien. Alors certes, maintenant, on voit que la saison a été catastrophique, mais on oublie de se rappeler que les 6 premiers mois étaient quand même pas trop mal et que c'était orchestré autour de Mason Greenwood.
Greenwood, à la base, c'est un joueur qui n'a rien à faire à l'OM. S'il n'avait pas eu ces problèmes hors football, jamais il est à l'OM, Greenwood. Donc aujourd'hui, c'est un joueur
qui... Il faut autant essayer de le garder.
Non, oui, mais il y a même toutes les belles histoires, elles doivent avoir une fin. Là, aujourd'hui, tu vas garder Greenwood sans la Ligue des Champions. Greenwood, c'est un mec qui est transcendé par la Ligue des Champions, par les gros matchs. Aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui doit aller voir ailleurs. Et autant pouvoir essayer de profiter quand même pour récupérer de l'argent à l'OM. Bien sûr, ce sera quasiment impossible à remplacer un joueur du même talent. Mais peut-être que, comme a dit fort justement Simon, tu vas peut-être avoir un joueur, je sais pas si c'est l'Orienté ou un autre, mais un joueur qui sera moins talentueux, mais qui fera plus d'efforts, qui passera plus avec la devise, avec l'espèce de refonte en profondeur qu'essayent de faire les nouveaux dirigeants, le propriétaire avec les nouvelles personnes à la direction. Et tu vas avoir peut-être une page blanche et ça va te permettre de partir sur autre chose. Tu sais que t'auras pas le talent de Greenwood, mais t'auras peut-être une équipe un peu plus complète à l'image de certains projets qui se sont rebasés sur des collectifs.
Et puis peut-être profiter de l'argent du transfert pour concocter un recrutement de joueurs peut-être pour l'instant, un petit peu moins talentueux.
Un transfert, c'est plutôt pour combler les dettes, les dettes ou les pertes que
oui, mais si tu combles les trous, tu peux à nouveau investir peut-être éventuellement. J'essaie de donner un petit peu d'espoir aux supportrices et supporters marseillais. Merci beaucoup Florian d'avoir fait le 32-16, d'être venu à partager ton inquiétude, Mason Greenwood, qui devrait donc quitter l'OM après deux saisons. On parle d'un intérêt très prononcé de l'AS Roma, avec qui les discussions avancent bien. Reste à trouver un terrain d'entente sur une indemnité de transfert qui sera amputée de 40%. Je vous le rappelle, 40% du transfert qui reviendra dans les caisses de Manchester United. C'est ce qui avait été convenu au moment du transfert de l'anglais à l'OM. Vous ne bougez pas. Dans un instant, on va balayer un petit peu ensemble l'actu du jour. Elle concerne encore le mercato. Figurez-vous que le Real Madrid, les amis, ne communique plus seulement sur les joueurs qui signent chez eux, mais sur les offres qu'il fait pour tenter de recruter les joueurs.
Et t'as vu que le Real, dans la campagne de Florentino Pérez, il y avait des promesses de joueurs.
Et ben justement, il tente de les tenir, le nouveau, toujours président du Real, Florentino, réélu. On en parle dans un instant, dans l'after, vous ne bougez pas.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Simon Dutin.
Dans moins de 48 heures, le premier match du Mondial 2026 aura livré son verdict. Mexique-Afrique du Sud, 21h, heure française, la Coupe du Monde, c'est sur RMC que ça se passe, radio officielle. Vous n'en manquerez pas une miette sur l'antenne premium. Et puis sur l'antenne, vous venez de l'entendre dans la petite annonce avant qu'on reprenne l'antenne. La radio digitale, 100% Coupe du Monde, 24h sur 24. Pour ne rien manquer du Mondial, tous les matchs seront commentés en direct, tous les matchs seront débriefés, les performances de tous les joueurs analysées. Et évidemment, on se projettera chaque jour sur les différentes rencontres pour les Bleus. Ce sera mardi prochain, le mardi 16 juin, 21h, heure française, France-Sénégal, dans le groupe I. Irak-Norvège, ce sera à suivre à partir de minuit. Mais pour l'instant, toujours en compagnie de Florent Gautreau et Kevin Diaz, qui s'envolent avec une partie de l'équipe de l'After demain pour les États-Unis. On va balayer un petit peu les infos du jour. Au moins, celle qui peut-être nous a le plus surpris, c'était en fin de journée, le Real Madrid, les gars, a publié ce communiqué officiel pour annoncer, alors non pas une arrivée, mais une offre de transfert, une offre pour un joueur que le club souhaite recruter. Elle concerne Julian Alvarez, l'attaquant argentin du voisin madrilène l'Atlético. On sait qu'il est sur le départ. Le Real annonce par un communiqué officiel, c'est très sérieux, avoir proposé 150 millions d'euros pour le transfert du champion du monde, qui est également passé par Manchester City. Offre poliment refusée par l'Atlético, comme le précise le communiqué du Real. Je cite, après avoir étudié l'offre, l'Atlético de Madrid a remercié le club pour cette offre, effectuée dans le cadre des bonnes relations qui unissent les deux clubs, mais l'a rejetée. On se pince pour y croire. Alors c'est une manière, parce que Flo t'en parlait juste avant la coupure, pour Florentino Pérez de montrer qu'il tient ses promesses électorales, puisqu'il avait en effet promis qu'en cas de réélection à la présidence du Real, il ferait une offre de 150 millions d'euros pour un galactique, avait-il dit. Qu'est-ce que vous inspire cette info?
Non mais moi, pour te dire la vérité, j'étais à Madrid ce week-end et donc je déjeunais avec mon ancien agent qui habite là-bas, à 3 minutes à pied du stade Bernabéu. Et quand tu rentres dans le stade, tu visites la boutique, tu vois l'ampleur du truc en plein centre-ville, comme ça tu te rends compte bien sûr que c'est un club à part, mais la boutique était pleine, hein, pleine, alors bien sûr de maillots, mais de d'Espagnols, de touristes, de tout ce que tu veux. Mais ce club, c'est quand même pas un club comme les autres, quoi. Non, mais l'histoire là, en gros, de faire des annonces politiques,
c'est
clairement en disant, alors on sait pas si on va l'avoir, mais sachez qu'on a quand même envoyé 150 patates. Bon, pour l'instant, l'Atlético a dit non. Il s'avère que j'étais aussi au stade de l'Atlético. Tu vois quand même que c'est pas un petit club non plus, hein, l'Atlético, c'est gros club, gros stade. Bien sûr qu'ils vont pas accepter la première offre. Et en plus, je sais pas si ça va vraiment t'aider à négocier, de dire que tu leur as envoyé une offre qu'ils ont refusée. Enfin, je veux dire, il y a rien qui va dans le truc.
C'est ahurissant.
Franchement, c'est là, il y a rien qui va.
Je vous invite à aller voir ce qu'a tweeté, comme on disait encore récemment, l'Atlético de Madrid, qui a envoyé se faire voir le Real Madrid. C'est Edgar Grollo qui nous a alerté, notre correspondant en Espagne. Donc évidemment, le compte de l'Atlético de Madrid, qui cite celui du Real Madrid, en disant « Vous avez peut-être confondu éducation et gratitude, mais justement, il n'y a aucun doute. Nous ne vous remercions pour rien. Nous n'étudions ni n'évaluons aucune offre pour Julian. Comment ne pas bien s'entendre si vous nous faites rire encore plus que le FC Barcelone ?» Vous savez, c'est Barcelone qui, pareil, s'est fait reprendre par le club madrilène lorsqu'il était question du même Julian Alvarez.
Il reste combien d'années de contrat, on sait ?
Un an, je crois, pour Julian Alvarez. On va vérifier ça, mais pendant que je vérifie...
Si c'est 150 millions d'euros pour un an,
non, mais
c'est quand même les respecter. Hein.
Post-scriptum de l'Atlético, profitant des bonnes relations avec votre nouveau président, voyons si vous arrêtez de voler les joueurs de notre académie. Merci beaucoup. Real Madrid conclut l'Atlético. Bon, on a sorti le pop-corn, mais au-delà de ça, il nous a pas habitué à ça. Florentino, quand même, Florent Gautreau.
Ouais, alors, c'est pas tout à fait le même Florentino qu'à une époque. Tu sais, on a beaucoup parlé, nous, en France, de Aulas et de sa carrière à l'OL. Et à la fin de l'ère Aulas, on a eu ces fameux discours qu'on était obligé.
Je coupe parce que j'ai quand même dit une saucisse. Il est sous contrat jusqu'en 2030, Julian Alvarez, avec l'Atlético. Ce qui explique qu'en effet,
je me disais
même
aussi.
Si Mauricio, bah oui, mais il faut se méfier parce qu'en Espagne, comme il y a des clauses, tu vois, forfaitaires, bon, quelle que soit la durée de contrat qui reste, parfois tu es obligé de payer très cher pour une année de contrat. Flo. Ouais,
non, je faisais la comparaison avec Olas, évidemment, ça n'a rien à voir, le Real et l'OL, mais il y a des moments où ces présidents ont été capitaux, ont évidemment porté le club à bout de bras et ont eu des projets un peu intéressants, même si, effectivement, Florentino Pérez s'est toujours construit sur cette idée. Qui va un peu à l'encontre de ce qu'on est en train de vivre, je le disais tout à l'heure, à travers des clubs comme le PSG ou des sélections comme l'Espagne, de ces galactiques, de ces transferts forcément onéreux, souvent offensifs d'ailleurs, enfin dans le secteur offensif. Mais là le truc, c'est que il a précipité, tu sais, l'élection pour pouvoir enfin être élu, certes avec ce programme, mais quand même avec la volonté d'être élu, dans une conférence de presse qui était déjà lunaire, où il a fait preuve de sexisme d'ailleurs, et il a été un peu, enfin il a montré un peu toute la, on va dire, la détérioration de son état, et c'était vraiment un peu déjà pitoyable, avec des réponses qui laissaient à désirer. Donc
on sent une fébrilité chez celui qui a longtemps incarné l'autorité.
Il y a une grosse fébrilité, et surtout il n'y a pas de cohérence. C'est-à-dire que quand tu prends des coachs comme, enfin il n'y avait pas de cohérence. À partir du moment où tu prends Xabi Alonso, tu te dis tiens, on va essayer de construire une identité de jeu, lui confier les clés du camion. Bah déjà tu dois lui mettre l'effectif qui va en adéquation avec ça, ce qui évidemment n'était pas le cas. Donc tu dégages Xabi Alonso, et maintenant tu reviens finalement sur un profil qui plus est, sur Mourinho, qui n'est pas le même profil, enfin qui n'est pas le même Mourinho qu'il y a quelques années, mais en gros qui te dit que qui montre que tu abdiques sur cette idée de changer de modèle, et que tu reviens à quelque chose qui te dit bah le coach est le patron du vestiaire, et effectivement c'est lui qui va décider, et il a bien raison. Mourinho, il est arrivé avec une liste de joueurs donc il ne voulait pas, et des joueurs qui voulaient, mais voilà, le Real en gros finalement a perdu du temps ces dernières saisons, et n'a plus un effectif équilibré. Donc non, c'est ça le vrai souci.
Pour la parenthèse juste, Kevin, il y a le communiqué du Real a officialisé le départ de Darbeloa du madrilène. Encore
est-ce
pas été
le officiel. Proposé à quelqu'un d'autre. Non.
Et ce soir, pendant qu'on papotait ensemble, Benfica a officialisé le départ de José Mourinho.
J'ai bien suivi, bien sûr, les 10 dernières années de José Mourinho, son arrivée au Benfica, je n'y croyais pas du tout. Bah, il s'est avéré qu'il a rien fait de spécial.
Ah donc, bon, certains disent qu'il a pas raté non plus son passage.
Il a pas raté, il a pas été champion.
Ah oui.
T'es à Benfica, t'es pas champion, t'as raté. C'est simple. Donc aujourd'hui, en Turquie, c'était quand même compliqué. Au Real, ils avaient un entraîneur comme Xavi Alonso qui a fait un truc historique avec Leverkusen, qui est une légende du club, qui est une légende du football espagnol. Ils l'ont même pas laissé 6 mois. Donc à partir de là, mais moi je fais partie de ceux qui pensent que le Real, alors bien sûr ils ont tellement d'argent qu'ils vont finir par avoir une équipe cohérente, mais honnêtement, le président, il a beau avoir été réélu, hein, aujourd'hui il aurait peut-être fallu laisser la place à quelqu'un d'autre pour que ce club ne soit pas le club d'un seul homme, mais le club d'une ville, le club de socios très investis. Et pour moi, d'ailleurs, on disait aussi que le fait qu'il soit réélu, mais que à 60 et quelques pourcents,
65,
c'était pas non plus un plébiscite. Hein.
Oui, mais ça veut quand même dire qu'il y a 65% des socios du Real qui veulent Mourinho sur le banc, puisque tu sais qu'il
n'y avait pas de concurrence. Les mecs, ils sont perdus. Ils sont avec Arbeloa. Le gars n'a jamais entraîné au niveau. Il est entraîneur du Real. Ils avaient Xavi Alonso. Tout le monde était content. Ils l'ont sorti au bout de 4 mois. Donc là, c'est sûr que là, c'est plus la crise. Là, c'est une énorme crise.
Et en effet, bon, c'est quand même étrange de communiquer sur des offres. Des offres de transfert.
C'est purement populiste. C'est, vous inquiétez pas, pour l'instant, on sait pas qui on aura, mais en tout cas, on essaye, on envoie de l'oseille, et vous pourrez pas nous reprocher de pas avoir essayé.
On a essayé, t'es le Real Madrid, quand même. Regardez, on a essayé, mais ils veulent pas. Alors, c'est Idir, un fidèle de l'After, hein, qui me rappelle que la clause de Alvarez, c'est 500 millions d'euros, évidemment, pas touche à Alvarez. Mais certaines dispositions là du contrat stipulent que certains clubs qui jouent la Ligue des Champions notamment peuvent être autorisés à négocier évidemment une indemnité un petit peu.
Mais déjà même dans certaines de ces promesses, il y avait Konaté, tu sais, qui effectivement a signé au Real. Mais même Konaté, Konaté vient au Real parce que il voulait prolonger à Liverpool, mais il n'y avait pas d'alignement à Liverpool sur la politique sportive. Slot a été viré, donc Konaté part. Mais même que le choix de Konaté est assez intéressant, il se précipite pour faire Konaté, bon, effectivement, qui était un très bon défenseur de Liverpool, mais qui est l'ombre de lui-même depuis un an, et c'est un sujet d'ailleurs qui va rebondir et qui va rejaillir plutôt sur l'équipe de France. Bah, même là, tu sens que effectivement, c'est un peu un président aux abois, et donc il est dans cette idée de faire revenir à Mourinho sur ce revival sans ambition. Il est sur l'arrivée de Konaté, il est effectivement sur ce que tu viens d'expliquer, qui est assez risible.
Bon, voilà, en tout cas, affaire à suivre, comme on dit dans notre jargon. Autre info sur laquelle je voulais vous faire réagir, pas sûr qu'on ait le temps, mais c'est une info RMC, une info du Faucon. Messieurs, Pierre Sage, après avoir décidé de quitter le Racing Club de Lens, vous savez où il devrait
entraîner ? Crystal Palace.
Crystal Palace, en effet, 15e de Première Ligue la saison dernière. Oui,
alors
vainqueur,
non.
Oui, vainqueur.
Non, champion d'Europe. Ben non, c'est pas le terme.
Champion d'Europe. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-ci?
Ben non, mais excusez-moi, c'est pas la peine de faire l'after foot pour dire une connerie pareille. Il y a qu'un champion d'Europe. Celui qui gagne la Coupe de France.
Les gars.
Celui qui gagne la Coupe de France n'est pas champion de France.
L'OM.
Vainqueur.
Il n'y aura jamais les premiers.
Mais ils ignorent en foot, c'est terrible.
Bon, vainqueur de Coupe d'Europe, voilà. En tout cas, Lens et le club de Londres, hein, c'est un club de Londres, Crystal Palace, ont dû négocier un accord puisqu'il fallait payer pour arracher Pierre Sage au stade Bollard.
Parce que la question est piège ou pas, Crystal de Palace.
Excellent, joli.
Magnifique.
Voilà, on embrasse Bruce Willis.
Qui ira à Buckingham.
Qui est un fidèle.
Palace. T'adores ça.
Voilà, la compile des meilleurs
C'était pour voir la transition avec l'ennemi du Cazard enchaîné.
Peut-être que Julien Cazard pourra faire gagner le recueil. Oui, excellent.
Je crois d'ailleurs qu'ils ont des soucis maintenant, tu sais, les casinos à Vegas.
Oui, oui.
Ils ont des petits soucis. Ils essaient de se réinventer.
Les nuits du Cazard enchaîné, mon cher.
Oui, avec un thème particulier, comme c'est les States.
Ouais.
C'est un peu Disneyland. C'est un pays qui est devenu. Alors c'est un Disneyland. Faut quand même. C'est pas facile d'y entrer dans ce parc d'attractions. Mais donc on va parler des souvenirs de parc d'attractions.
Hein, si t'es somalien, c'est difficile d'aller à Disneyland.
Ah bah, oui, mais t'as qu'à pas être somalien aussi au bout d'un moment, tu vois. Bon. Faites des efforts, les gars.
Tu compliques la vie. Hein,
bah ouais, tu te rends pas donc, les services.
Les souvenirs de parc d'attractions.
Absolument.
T'en as un, non?
Les
souvenirs de
le vélodrome ne compte pas, Kevin.
Ah si, le stade Maurice Chiron. Non, c'est Maurice, Adolphe. Alfred, Adolphe.
Stade Chiron.
C'est Chiron.
Il s'appelle Adolphe.
Quel bon choix.
Comme Uther.
Ah ouais. Comme Adolphe Uther et Nasinho. Et je voilà. Tout se passait par Monaco.
Ah, je recommande Alton Towers en Angleterre, pour ceux qui aiment bien un petit peu voyager.
Pour, c'est quoi, c'est du golf?
Formidable. C'est un parc d'attractions, pardon.
Ah oui, pardon, d'attractions, mais c'est pas...
La Rommel aussi.
Voilà. Bon.
Il y avait le sable.
Il y avait le Matmut Atlantique, il y a encore quelques mois, si tu...
Ah oui, c'est bien, c'est...
Bon, eh ben, on te passe la balle dans un instant, les nuits du Cazard enchaîné. D'ici là, merci Kevin, merci Flo. Bon voyage.
Merci.
On vous retrouve évidemment à l'antenne de RMC pour cette Coupe du Monde qui démarre dans deux dodos maintenant, à peine. D'ici là, vous restez sur RMC, le sport, l'info, le débat et l'humour avec Julien Cazard. Ne s'arrête jamais. Salut.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.